Le bon plaisir de Claude Simon par Marianne Alphand, Pamela Dousseau. Pyrénées-Orientales, un village entre les Corbières et la côte, sur la place de l'église, la maison de Claude Simon, prix Nobel de littérature. Est-ce qu'on commence par parler un peu de cette maison que vous habitez une partie de l'année, qui est une maison de famille?
Oui, voilà, c'est une maison de famille. J'ai retrouvé l'acte d'achat. Elle est achetée en 1753. Et sur cet acte d'achat, elle est portée comme très vieille, où il y a beaucoup de réparations à faire. 1753, alors, et ça ne date pas d'hier. Je pense que elle devait avoir 100 ans déjà à cette époque-là, puisqu'elle doit dater du moment où c'était encore l'Espagne ici, je pense. Parce que c'était le premier village espagnol, catalan. Ici, ce n'est français que depuis le traité des Pyrénées.
Sous Louis XIV.
C'est ça.
Oui, donc la maison aurait été espagnole.
J'ai l'impression, puisqu'il est de combien le traité des Pyrénées? Je ne sais pas. Ça doit être 1650, quelque chose comme ça, non? C'est tout aussi fort que moi. Je ne sais pas. Elle doit dater à peu près de ce moment-là.
Et donc elle est restée dans votre famille?
Oui, oui, oui. Tout le temps.
Et la Comte Saint-Michel?
C'était celui qui l'a acheté, c'était le gouverneur du fort, c'était de la Houlière, qui l'avait acheté pour son gendre qui était d'Aubermesnil, celui qui était dans le portrait était là, était volé. Ils étaient et d'Aubermesnil était conventionnel aussi comme la Comte Saint-Michel, c'était des amis, mais d'Aubermesnil était girondin, je pense que. Il a dû faire de l'absentéisme, c'est ce qui lui a sauvé la vie, tandis que la Comte Saint-Michel était un jacobin très virulent. Et voilà, elle est restée inoccupée pendant très longtemps, et puis je me suis installé ici il y a un peu plus de 30 ans maintenant. J'habitais Perpignan, enfin j'avais une maison à Perpignan, je l'ai laissée, je suis venu ici, et je m'en félicite parce que Perpignan est devenue une ville invivable.
Et donc cette maison ruinée, vous l'avez...
à peu près reconstruite. Mmh. À peu près.
Oui. C'est tout à fait comme au début de ce livre, Leçon de choses, où il y a une description d'une pièce en travaux.
Eh oui, Leçon de choses, c'était assez drôle. Parce que justement, Mag m'avait demandé un texte pour être illustré par Alechinsky, qui faisait des placards à ce moment-là, ce qu'il appelait des placards. Et il me demande d'écrire quelques lignes. C'est une feuille de la grandeur de Ingres à peu près. Et mon Dieu, je lui dis quelques lignes. Moi, je ne suis pas poète. Je ne savais que faire. Et justement, il y avait au rez-de-chaussée une pièce complètement en ruine que nous avons fait réparer. Et les maçons qui travaillaient, je me suis mis à décrire cette pièce. Et les maçons travaillant, le vieux papier à moitié déchiré, en fait. Et puis, je crois que ça se terminait que par ces phrases, la description pourrait être continuée à peu près indéfiniment, n'est-ce pas? Et selon qu'on imagine les gens qui ont vécu, ou qu'on ajoute des personnages, ou qu'on... Et puis, après avoir fini ça, je me suis dit, ben, puisque tu l'as écrit, fais-le. Et j'ai continué, ça a fait le livre, ça a fait le son de choses.
C'était ce que vous appelez un générateur?
Oh, alors là, faisons bien attention. Le générateur, ça a été employé un peu à tort et à travers. Je me méfie de plus en plus de ces mots un peu savants. Disons que c'était un stimuli au départ. Je préfère le mot stimulus plutôt. Je préfère des mots plus simples. Ça m'a donné envie d'écrire, c'est tout.
Oui, et quand je me souviens que vous m'aviez dit une fois, j'essaye d'être le plus concret possible.
Oui, j'essaie d'être le plus concret possible. Alors là, on ouvre un grand chapitre. Je crois que c'est un mouvement assez général et qui s'est produit après la guerre. Je crois que je vous lancer là sur un terrain qui n'est pas le mien, celui de la sociologie. Je crois qu'après la guerre, il y a eu inconsciemment, après une chose comme Auschwitz, où on a vu vraiment que le vieil humanisme, ça n'existait plus, on a tué 6 millions de personnes. Et qu'il y a eu inconsciemment, et chez les peintres, et chez les écrivains, une sorte de besoin de rejeter tout ce fatras humaniste et de se raccrocher au concret. Et alors, regardez en peinture, le graffiti, le retour à la surface, Rauschenberg, Louise Nevelson, c'est-à-dire non plus le trompe-l'œil, mais la chose en soi, le morceau de bois. Et je crois qu'il y a eu, c'est plus ou moins conscient tout ça, et plus ou moins diffus, mais ça s'est retrouvé chez les écrivains, en particulier Rob Grier, pour lequel j'ai vraiment, malgré quelques désaccords, la plus grande admiration. Un livre comme La Jalousie, je pense que c'est dans l'histoire de la littérature extrêmement important, c'est-à-dire aucun commentaire de valeur, n'est-ce pas? De quoi s'agit-il? Et il a dit ce mot auquel je souscris entièrement, le monde n'est ni signifiant ni absurde, il est.
Oui, c'est-à-dire ça a été aussi bien l'ère du soupçon de Nathalie Sarraute ou le degré zéro.
Oui, exactement, le degré zéro de l'écriture de Barthes, l'ère du soupçon, la table rase, n'est-ce pas? Tout ce monde, tout ce discours humaniste, un de mes personnages dans la route des Flandres, qui est prisonnier, qui crève de faim, son père qui est un vieil universitaire lui écrit quel désastre le bombardement de la bibliothèque de Leipzig, qui était une des plus belles du monde, et le prisonnier lui répond, c'est vraiment tout ce qui était écrit dans tous les livres de la bibliothèque de Leipzig n'a pas pu empêcher qu'on bombarde non seulement la bibliothèque, mais encore les gens et les habitants. Quelle perte! Ben, je crois qu'il y a eu un sentiment général de cette faillite. D'où ce désir de se raccrocher au concret, au mur, à la matière.
Vous m'aviez dit une fois que quand vous étiez rentré de la guerre, enfin après vous être échappé, vous vous étiez mis à dessiner.
Ah oui, complètement. Je dessinais Dürer, les dessins Dürer ont toujours fait mon admiration, c'est génial. Je ne dessinais pas comme Dürer, mais je m'étais mis à dire, voilà, prendre les choses telles qu'elles sont. Enfin, dans Les Possédés, il y a un passage admirable, Kirillov, qui dit, regardez, une feuille, elle s'est nervue, etc. Que demander d'autre?
Et vous dessinez des objets?
Des objets, tout. Des objets, des paysages, des arbres, des nuages, des femmes, tout. J'aime décrire. Je ne suis pas porté à me faire m'analyser. C'est comme ça. Je vous ai déjà donné des choses peut-être imprudentes comme interprétation.
Vous avez conservé vos dessins?
Oh, oui, il y a peut-être quelque part, non. Peut-être, je ne sais plus, j'ai un grenier là-haut qui est plein de choses, je vis dans un désordre épouvantable, de temps en temps j'en retrouve un à Paris ou ici, enfin, plus beaucoup.
Parce qu'on connaît Claude Simon, photographe, hein, Claude Simon, écrivain, à part certains dessins de vous aussi, je crois qu'il y a ce fameux dessin qui est fait de votre bureau, la Sange.
Oui, à Paris, oui.
De votre table de travail, mais on ne connaît pas finalement
Claude Simon, dessinateur. Il y a un dessin aussi que j'ai fait ici, qui est, vous connaissez cet album de l'amateur qu'ont publié les Allemands, ben, il y a un dessin aussi qui est fait ici. Mmh. Ben, comme ça. Hein. En général, je dessine quand, quand ça ne va pas, quand l'écriture ne va pas, ce que j'ai en face de moi, la fenêtre, mon bureau, voilà. C'est tout ce que je fais.
On a le sentiment que vous vivez sans beaucoup de relations avec, avec Sals, avec la, avec
oui,
la ville.
Oui. Non, je me suis toujours senti un peu étranger ici, de mon enfance, déjà de ma jeunesse, parce que je ne parle pas catalan. Et alors tout le monde parlait catalan quand j'étais jeune, et encore, maintenant ils parlent encore catalan entre eux. Alors ça m'a toujours un peu coupé des gens ici. Et je dois dire que j'aime beaucoup ce pays, j'aime beaucoup cette maison, mais mon père était franc-comtois. Et je me sens beaucoup plus chez moi dans le Jura. Malheureusement, je n'ai plus rien là-bas, j'y vais plus, mais je ne voudrais pas faire de peine à mes amis catalans. Mais je me sens beaucoup plus chez moi dans le Jura.
C'est ce lieu que vous décrivez dans Triptyque.
Oui, oui, oui. Toute la partie campagne, enfin j'appelle ça la partie campagne, C'est tout petit patelin, les planches près d'Arbois, que, où j'ai passé mon enfance. Enfin, mon enfance, c'était mes vacances quand j'étais petit.
Et vous vous sentiez de là-bas parce que c'était un lieu de vacances ou c'était en...
Non, je ne sais pas pourquoi. Je vivais surtout ici, puisque jusqu'à la mort de ma mère, qui habitait Perpignan. Elle est morte quand j'avais 11 ans. Et ici, vous voyez le pays, enfin, vous y êtes venu. C'est en général, maintenant il pleut, c'est exceptionnel, mais en général c'est sec, c'est la poussière, c'est dénudé, c'est des rivières presque à sec. Et puis alors j'allais là-bas en vacances quand j'étais gosse, et même quand j'étais adolescent, j'avais deux vieilles tantes, les sœurs de mon père. Et alors là-bas c'était les forêts, les champignons, les rivières, les truites dans les rivières, les prairies, la verdure. Pour moi, c'était vraiment le paradis. Sorti d'ici, c'était le paradis. Sorti d'ici, de cette poussière, de ce vent, de tout ça. Et puis, je sais pas, je suis resté très attaché là-bas. C'est un endroit, ça, je n'aime pas énormément Stendhal, mais j'ai été réconcilié avec lui. Enfin, réconcilié, je me suis dit quand même, parce qu'il écrit dans la vie d'André Brûlard que quand on... Ah là, on voit ça. Quand on va de Dôle à Arbois, on voit dans le fond des falaises rocheuses qui l'émeuvent et qui le font penser à Bathilde. Je ne sais pas pourquoi les falaises rocheuses le font penser à Bathilde. Et ces falaises rocheuses sont celles qui dominent ce hameau des Planches dont je vous ai parlé, qui était le berceau de ma famille.
Et cette famille paternelle était une famille de paysans?
Ah oui, de paysans pauvres. Et... Mes tantes étaient institutrices, mon grand-père était un paysan qui avait quelques lopins de terre.
D'où cette expression que vous avez employée une ou deux fois, je suis un sang mêlé.
Ah ben oui, parce que vraiment, entre mon père était, j'ai derrière les yeux bleus, mon père était, je crois, châtain clair, tiens blanc, ma mère au contraire était de Perpignan, c'est-à-dire, vous voyez, catalane, enfin catalane, pas tout à fait, puisque notre arrière-grand-père, la Comte Saint-Michel, était du Tarn, mais enfin disons qu'elle était catalane. C'était vraiment un mélange, et à peu près autant de différence entre les deux qu'entre un Norvégien et un Castillan, à peu près.
Oui, et même socialement, il y avait une grande différence entre le milieu de votre père et le milieu de votre mère.
Ah oui, total, je vous dis, mon père c'était... une famille de paysans pauvres, et ma mère c'était la grande bourgeoisie perpignanaise avec les descendants de généraux, de la Comte Saint-Michel, d'Aubert-Ménil, enfin c'était tout à fait différent.
Et comment vos parents se sont-ils rencontrés?
Eh bien, comme je vous l'ai dit, mon père, cette famille de paysans, c'est son seigneur aux quatre veines pour qu'il puisse faire des études. Il est arrivé à être officier, son régiment était en garnison à Perpignan, et comme je l'ai raconté dans l'Acacia, je pense que c'était à l'occasion d'un mariage ou d'un concours hippique ou d'une cérémonie quelconque où des officiers étaient invités qu'il a ainsi rencontré ma mère qui faisait partie de cette bourgeoisie catalane.
Et vous n'avez pas connu votre père ?
Non, je ne l'ai pas connu du tout. Il a été tué tout à fait au début de la guerre de 14, en août 14. Et j'ai été élevé en grande partie par la famille de ma mère.
Vous devez beaucoup à la famille de votre mère ?
Oui, j'ai eu une chance exceptionnelle. Parce que la famille de ma mère était très 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 bien. Notamment, je dois toute ma culture à elle parce que on faisait énormément de musique. Vous savez, comme dans, mais alors pas de la musique enregistrée, des quatuors, des quintettes, ils montaient. Et j'étais élevé au milieu de Mozart, de Beethoven et de Bach. Et on lisait dans ma famille. C'est une tante, une sœur de ma mère qui m'a fait lire Proust. C'était tout de même une famille pas mal, quoi. Qui est tranchant sur la moyenne de la bourgeoisie provinciale.
Vous jouiez d'un instrument ?
Ma mère a voulu, j'étais soutien, m'a fait apprendre le piano, il paraît que j'étais odieux, on a abandonné les leçons. Je le regrette beaucoup d'ailleurs.
Qui était un cavalier et qui vous a...
Ah, mon oncle, oui, alors ça, c'était une autre branche de la famille, ça a été mon tuteur. Il était officier en retraite, enfin, quand ma mère est morte, elle l'a désigné comme tuteur. Il habitait Paris, lui, et il était officier de cavalerie en retraite et d'aviation. Il avait été aviateur pendant la guerre de 14 et prisonnier, c'est lui qui m'a élevé et qui m'a mis sur un cheval quand j'avais 12 ans.
Il y a cette fameuse photo où on vous voit un cheval en train de sauter un obstacle.
Ah, mais ça, c'était au service militaire. C'était plus tard, parce que j'ai fait mon service militaire dans la cavalerie et la guerre ensuite dans la cavalerie également, à cheval.
À cheval, oui.
armé d'un sabre et d'un mousqueton contre les blindés, les avions allemands. On nous a... envoyé, enfin ça serait toute une histoire à mettre au clair. On a envoyé des régiments de cavalerie comme ça, à cheval, en Belgique, au-delà de la Meuse même, rencontrer les divisions blindées allemandes et l'aviation allemande. Ça a été un massacre. Je faisais partie d'une brigade de cavalerie. Mon régiment a été très touché, mais l'autre régiment, la brigade de cavalerie, ce sont deux régiments. Il y avait le 31e et le 8e dragon. Et mon régiment était, enfin, à moitié anéanti, mais le 8e dragon, alors je lisais justement le journal de marche du 8e dragon, ça a été un martyr. Il n'en est rien resté, ils ont été complètement massacrés.
Mais alors, quelle était, pendant cette dernière guerre, quelle pouvait être la fonction d'une cavalerie ? Ça paraît tout à fait anachronique.
Nul. C'était... les manœuvres qu'on osait faire, et pendant le service militaire, et pendant la drôle de guerre, où toutes les semaines il y avait une manœuvre, et tous les jours une instruction militaire, c'était des manœuvres modèle 1870, à peu près. Non, ça c'était effarant. Je ne sais pas ce que ces gens-là pouvaient imaginer. Je dis ces gens-là avec un certain dégoût. Parce que vraiment, c'est... enfin, je n'aurais pas envoyé des mots trop grands, mais... ça frise le criminel d'avoir fait des choses pareilles.
Pour un lecteur de La Route des Flandres, je crois qu'à aucun moment on se dit il s'agit d'événements réels.
Ah oui ?
Non.
Bien.
Non, d'abord parce qu'il y a quelque chose d'extravagant.
Ah oui, extravagant, ça l'était.
Quelque chose d'extravagant dans cette histoire de cavalier passant à travers la campagne sous les avions entourés de chars, etc. Donc on ne peut... On a l'impression d'un rêve, enfin, c'est...
Eh non, c'était... c'était plutôt un cauchemar, quand même.
La route des Flandres.
Mais l'ai-je vraiment vu? Ou cru le voir? Ou tout simplement imaginé après coup? Ou encore rêvé, peut-être dormais-je? N'avais-je jamais cessé de dormir les yeux grands ouverts en plein jour, bercé par le martèlement monotone des sabots des saints chevaux piétinant leurs ombres, ne marchant pas exactement à la même cadence, de sorte que c'était comme un crépitement alternant, se rattrapant, se superposant, se confondant par moments, comme s'il n'y avait plus qu'un seul cheval, puis se dissociant de nouveau, se désagrégeant, recommençant, semblait-il, à se courir après, et cela ainsi de suite. La guerre, pour ainsi dire, étale, pour ainsi dire, paisible autour de nous. Le canon sporadique frappant dans les vergers déserts avec un bruit sourd, monumental et creux comme une porte en train de battre, agité par le vent dans une maison vide. Le paysage tout entier inhabité, vide sous le ciel immobile. Le monde arrêté, figé, s'effritant, se dépiautant, s'écroulant peu à peu par morceaux comme une bâtisse abandonnée, inutilisable. Livré à l'incohérent, nonchalant, impersonnel et destructeur travail du temps.
Ah, c'était au mois de mai, toute la nature était en fleurs, en mourait dans les pâquerettes. Enfin, c'était peut-être ça augmentait peut-être encore le tragique de la chose, parce que c'était en apparence une nature riante, paisible, et puis l'enfer se déchaînait là-dedans. Le contraste était peut-être encore plus frappant. Et c'est une région d'ailleurs. Très belle, cette région de la Vénois, des Ardennes, de la Meuse, c'est une très belle région. Il y a des bois, des prés, des petits étangs, enfin, malgré la guerre, je l'ai regardé.
Et vous êtes retourné voir cette route qui a joué un si grand rôle, je suis retourné,
parce que je voulais voir si mes souvenirs étaient exacts, ils étaient absolument exacts.
Est-ce qu'à l'époque, pendant cette chevauchée invraisemblable, ou pendant cette marche de prisonniers à travers la Belgique, ou pendant les mois de captivité, est-ce que vous pensiez, je raconterai ça, je l'écrirai?
Non. Non, et j'ai été très long à me décider parce que, oui, la route des Flandres, je ne me rappelle plus quand elle date, mais 20 ans, c'est presque 20 ans plus tard, quand date la route des Flandres exactement?
1960.
60. Oui, 60-40, j'ai mis 20 ans à me décider à l'écrire. Parce que je me suis dit, c'est très délicat, écrire tout ça. Est-ce que je me rappelle bien? Je me rappelais bien. Et puis, j'ai trouvé un temps, en fait, toutes les difficultés de l'écriture d'un roman, doublées de ce thème de la guerre qui rendait les choses encore plus difficiles.
C'était une époque où vous ne pensiez pas être écrivain?
Ah si, j'avais commencé déjà un livre, Le Tricheur, je l'avais écrit à peu près la moitié avant la guerre, et puis j'étais mobilisé, j'ai fait la guerre, j'étais prisonnier, je me suis évadé, je n'ai pas osé revenir à Paris parce que les Allemands avaient mon adresse à Paris, et heureusement j'avais cette maison de Perpignan, en m'évadant j'étais à Perpignan, et j'ai fini la seconde moitié du Tricheur à Perpignan. Et je ne pensais pas publier ça pendant que les Allemands étaient là. Enfin. Et puis, enfin, une petite histoire. Je faisais à ce moment-là de la peinture, puis j'avais connu l'Ursa, qui voulait me faire faire, André l'Ursa, de la tapisserie. Et il m'a dit, mais venez, je vais vous montrer comment on fait un carton de tapisserie. Il était à Souillac, dans le Lot. Et là, il m'a dit, mais vous pourrez... j'ai un ami qui met une pièce à votre disposition... Et cet ami était un homme absolument délicieux, c'était Edmond Baumsel, qui possédait avec Léon Pierquin les éditions du Sagittaire. Et étant donné qu'ils étaient juifs tous les deux, la maison avait été saisie par les Allemands, leur maison d'édition. Et alors, il m'a acheté de la peinture, et puis il m'a dit, ce que vous faites, je ne sais plus comment on a parlé. J'ai dit, oui, j'ai écrit un roman, comme ça, dans le fond d'un tiroir. Il dit, tiens, je suis éditeur, ça m'intéresserait de le lire. J'ai envoyé le manuscrit. Il m'a dit, oh, moi, ça m'intéresse, je l'ai envoyé à l'Empire 15, ça l'intéresse aussi, mais notre maison est sous séquestre par les Allemands, enfin, nous ne pouvons pas publier maintenant. Est-ce que ça vous ennuierait d'attendre la fin de la guerre pour le publier? J'ai dit, mais je suis tout à fait d'accord. Ce qui fait que ce livre n'a paru qu'en 1945.
Et vous n'avez jamais pensé le rééditer?
Non, c'est tout de même un livre de jeunesse avec des erreurs assez monumentales. Je ne tiens pas à ce qu'on voit, les mauvaises choses, enfin, les choses très discutables que j'ai pu faire. Mais enfin, il y a des thésards maintenant, des gens qui écrivent des thèses et qui l'ont trouvé. J'ai lu sur une chaise l'autre jour, il y a des choses que j'ai écrites dedans qui ne sont pas si mal.
Donc vos livres suivants, vous avez continué au Sagittaire, La Corde Raide.
C'est-à-dire La Corde Raide, et puis les éditions, vous savez, Léon Pirquin était malade, je crois assez paresseux, et finalement le Sagittaire a fait faillite. Et puis ça a été racheté par, oh c'est toute une histoire, ça a été racheté par Lindon, le fond. Et puis, alors j'avais été chez Calmann Lévy publier un livre, puis... Alors, j'ai fait la connaissance de Rob Brier qui m'a dit venez donc aux éditions de Minuit, et grâce à ce fonds, dans ce fonds il y avait mon contrat avec le Sagittaire, ce qui fait que l'Indon s'est trouvé avec mon contrat.
Vous vous rappelez la première rencontre avec Jérôme Lindon?
Pas très bien. Avec Rob Brier, oui, mais avec Lindon. Non, la première rencontre, je peux pas dire. Il y a eu tellement de rencontres après. Non, avec André, j'avais rencontré à Royaumont. Vous savez, il y avait ces réunions d'intellectuels là, l'été à Royaumont. J'avais rien lu de lui à ce moment-là. On a parlé. Vous me donnez le souvenir bien lointain. On a parlé. On a peut-être sympathisé sur certains points. Il m'a demandé ce que je faisais. Je venais de finir Le Vent à ce moment-là. Il m'a demandé s'il pourrait le lire. Je lui ai dit oui, je suis allé à lire, et c'est comme ça que je suis entré aux éditions. Il a dit à Lindon qu'il devrait le publier, voilà. Mais tout ça est un peu brouillé dans ma mémoire.
Là, on est aux origines du nouveau roman.
Bon, Ollier et Rob Grier se connaissaient, mais je crois que c'est plus tard que Rob Grier a rencontré Nathalie Sarraut, c'est plus tard qu'il m'a rencontré, c'est plus tard qu'il a rencontré Pinget, et tous... confusément, nous rejetions ce roman académique ou traditionnel, mais c'était tout à fait confus. Pour moi, du moins.
Pour vous, du moins, mais...
Rob Brier était théoricien, bon, il a écrit pour un nouveau roman. Eh bien, Ollier n'a jamais écrit de livre théorique, je crois. Non. Il y a eu le livre théorique, je crois qu'il n'y a eu que Nathalie Sarraut, avec Alain et Ricardo.
Oui.
Je crois. Pinget n'a jamais écrit de livre théorique, moi non plus. Il n'y avait pas une école, un groupe, disons un groupe. Et je vous dis, avec des préoccupations communes, jusqu'au moment où Lindon, c'était au moment, je crois que je venais de publier La Route des Flandres. Lindon avait eu l'idée, qui n'était peut-être pas mauvaise, mais enfin moi je lui ai tout de suite dit que ça n'irait pas, que nous fassions une sorte de manifeste, ou je ne sais plus, ou un dictionnaire du nouveau roman. Alors on s'est réunis, au début toutes les semaines, puis ensuite tous les 15 jours, chez lui il y avait Ricardo, il y avait Ollier, il y avait Rob Grier, moi-même, Pinget n'est pas venu. Et puis, il est arrivé ce que j'avais prédit, ce que j'avais dit à Jérôme, c'est que tous nous étions... Nous n'étions plus intéressés, ou je cherche un mot qui soit moins déclamatoire que répudié. Enfin, le roman traditionnel ne nous intéressait plus, mais à partir de là, ce que nous voulions faire, c'était pour chacun complètement différent. Et alors ça s'est vérifié encore plus quand il y a eu le colloque sur le nouveau roman à Cerisy. Nous étions tous d'accord pour rejeter quelque chose, Mais heureusement, sans ça, ça aurait été terriblement ennuyé, nous aurions tous écrit le même livre. À partir de ce refus du roman traditionnel, chacun de nous a été dans sa voie.
Et avec Michel Butor?
Oui, moi j'ai une grande estime pour Butor. D'ailleurs, les deux dont je me sens le plus près dans ce groupe, c'est Alain, Rogrier et Butor. Parce que, alors je crois que nous avons tous les trois en commun une espèce de, je ne dirais pas de manie, mais d'amour de la description. Tandis que, par exemple, chez Nathalie Sarraute, il y a très peu de descriptions. Chez Pinger, il y en avait, puis alors...
Dans l'Inquisitoire, il y a des...
Dans l'Inquisitoire. Et puis, à un moment donné, il a dit, assez de descriptions. Il a dit, ça suffit, j'aime beaucoup, parce qu'il est plein d'esprit. Mais enfin, je crois que ce goût, je ne dirais pas forcené, mais très prononcé de la description... nous étions principalement trois à le partager, c'est Butor, Robrier et moi.
Et vous ne vous voyez plus entre vous?
Ben non.
Jérôme Lindon, comment vous apparaissait Claude Simon à l'époque où les éditions de Minuit publiaient à la fois Alain Robbe-Grillet, Michel Butor, Claude Ollier, Robert Pinget, pour ne parler que d'eux?
Ces écrivains constituaient un groupe, c'est-à-dire qu'ils avaient une forme d'unité, alors qu'évidemment pour nous de l'intérieur, ce qui nous frappait c'était leur différence. C'était pas du tout, j'ai jamais été capable de dire ce qu'il y avait de commun entre ces différents écrivains, sinon... une sorte de refus qui leur était en effet commun d'un académisme comme il en existait, comme il en existe toujours à toutes les époques. Non, Claude Simon, pour moi, ça ne ressemblait pas du tout ni à Samuel Beckett, ni à Alain Robbe-Grillet, ni à Michel Butor, pour parler de ceux que nous avions publiés avant lui. Et pas plus qu'avec ceux qui ont suivi. Non, ça n'est... En tant qu'éditeur, comme n'importe quel lecteur, je suis plutôt sensible aux surprises qu'aux confirmations. Et puis l'œuvre de Claude, d'ailleurs, a aussi beaucoup évolué, parce que entre le premier livre que nous avons lu, lui, qui était déjà le cinquième, et puis le dernier, l'Acacia, il s'est passé beaucoup d'années, mais il s'est aussi passé un travail considérable, je dirais que voir le lien, si vous voulez, entre le premier et le dernier. Mais déjà, on aurait du mal à le voir entre, par exemple, Le Tricheur et l'Acacia. Ce serait même si ou La Corde Raide, qui sont des livres donc parus avant et que Claude Simon
ne souhaite pas rééditer.
Oui. Mais par exemple, dans La Corde Raide, il y a des thèmes, si on peut dire, qui seront repris dans l'œuvre de Claude Simon par la suite. Pour des historiens, c'est intéressant. Mais en effet, l'œuvre de Claude Simon, comme écrivain, s'est développée, je crois, surtout à partir du vent. Mais elle n'a cessé de franchir des étapes supplémentaires à chaque fois. Je veux dire, la route des Flandres a marqué aussi une date, et puis une quantité d'autres, y compris l'Acacia, qui constitue un paradoxe dans la mesure où c'est à la fois une clé de voûte et une somme de l'œuvre, et en même temps une introduction à l'œuvre. Aujourd'hui, je n'hésite pas quand quelqu'un, un jeune écrivain, enfin bon, un jeune lecteur plutôt, me demande par quoi il faut commencer, de lui dire l'Acacia, qui est, oui. C'est pourtant le dernier, mais ça me paraît une possibilité parmi d'autres, mais pour moi une possibilité très intéressante d'entrer dans l'œuvre de Claude Simon. Plus que par les premiers, on entre plutôt par les derniers que par les premiers.
Est-ce que vous êtes seulement son éditeur ou est-ce que vous avez des relations d'amitié Partez en vacances ensemble, voyagez ensemble.
Claude ne part pas beaucoup en vacances, moi non plus. Lui, Claude a la chance d'avoir cette maison merveilleuse à Sals, et il reste, et où il m'invite très, très gentiment tous les ans. Mais où c'est moi qui suis au-dessus de tout, puisque je suis incapable de m'éloigner de Paris longuement, enfin, pour des raisons personnelles, pendant très longtemps, je n'ai jamais quitté Paris, enfin, de plus de 200 kilomètres. Sals, c'est plus que ça. Et puis, ben, j'y suis allé quand même plusieurs fois à Sals, c'est cette maison est merveilleuse. Non, vous savez, être dans une toute petite maison comme la nôtre, être éditeur, c'est pas seulement publier des livres, c'est vrai que, et surtout quand on a des liens qui remontent à tant d'années, je ne sais pas si j'ai le droit d'employer le terme d'amitié, parce que ça, c'est un très grand honneur que Claude Simon me ferait, mais d'un autre côté, nos liens sont évidemment beaucoup plus intimes que de simples liens d'affaires, ça c'est clair.
En termes commerciaux, est-ce que les livres de Claude Simon sont des best-sellers?
Je ne sais pas si le terme convient, parce que je sais plus ce que ça veut dire un best-seller. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, par rapport aux livres, aux lecteurs de Claude Simon, qui, si mes souvenirs sont exacts, se montaient à 300-600 personnes au moment où il est arrivé aux éditions Mimi, évidemment, il a accompli de très sérieux progrès. Notamment, un livre comme La Route des Flandres est un ouvrage qui a été en collection de poche et qui a effectivement, je ne peux pas vous dire comme ça de tête combien, mais enfin, c'est des livres qui ont dépassé largement 100 000 et peut-être même 150 000 exemplaires. Cela dit, ça n'est évidemment pas un critère, parce que c'est souvent les œuvres les plus audacieuses et à mes yeux les plus intéressantes qui sont le plus mal reçues par le grand public. Et c'est normal. En réalité, ce qui serait normal, c'est que Claude Simon ait 2000 très bons lecteurs. Comme tous les grands écrivains. Puis nous vivons une époque où si on atteint que 2000 lecteurs, on ne peut pas revivre. Donc le rôle de l'éditeur est essayer de, grâce à des malentendus, car c'est vraiment de ça qu'il s'agit, peut arriver à toucher des publics beaucoup plus vastes qui sont plus ou moins lecteurs, parce que ce que les gens est-ce que tout le monde a lu La Route des Flandres de la première à la dernière ligne, de ceux qui l'ont acheté, je n'en sais rien. Moi, je sais qu'il y avait un livre de Claude que j'aime énormément, qui est Triptyque, et c'est certainement un de ceux qui a eu le moins de succès. C'est un des livres les plus extraordinaires de Claude Simon, parce que c'est comme son titre l'indique, c'est un livre qui est fondé sur trois thèmes, dont aucun n'est un thème principal. Ils sont tous principaux et secondaires par rapport aux autres, et donc c'est ainsi, alors que dans la littérature il y a toujours un thème principal. Même chez Claude Simon, La Route des Flandres, c'est quand même, il y a un axe qui est La Route des Flandres précisément. Là, dans Triptyque, il n'y a pas d'axe. C'est une espèce de littérature copernicienne où tout est mouvant par rapport à tout, et on comprend que ça puisse au premier abord dérouter des lecteurs, mais en même temps, quand on est dans la lecture de Triptyque, ça ne pose aucun problème de lecture quand on est dedans. Simplement, il faut se jeter à l'eau comme on se jette du haut d'un plongeoir. Et une fois qu'on est dedans et qu'on s'aperçoit que c'est très facile de nager, et c'est tout à fait une expérience tout à fait nouvelle et tout à fait passionnante. La seule chose est un livre aussi qui est plus petit, mais qui est aussi construit avec ce système-là. C'est bon, mais c'est pour ça que je ne conseillerais pas à quelqu'un d'entrer dans l'œuvre de Claude Simon par Triptyque ou par Le Son de Choses, parce que c'est très déroutant, mais j'espère que les lecteurs qui auront été convaincus par des livres d'abord plus faciles, même si ce n'est qu'apparent, iront jusqu'à lire ces livres-là. Thank you.
fumez beaucoup, hein.
Bon.
Pour un homme qui a eu une tuberculose...
Oui, j'ai plus qu'un poumon. Oui, mais je n'avale pas, hein. Je n'avale pas. Je n'avale pas la fumée.
Mais qu'est-ce qu'on vous a dit après votre tuberculose? Ne jamais fumer?
J'ai eu un médecin idiot, très bon et idiot. Il m'avait guéri, alors que j'étais mourant. Bien entendu, je ne fumais plus. Je n'avais plus envie de fumer. Et 2 ans après le mois, etc., il a la bêtise, la sottise de me dire « Ah, ben si vous voulez, maintenant, après les repas, une petite cigarette, vous pouvez vous la permettre. » C'est reparti. S'il ne m'avait pas dit ça, je n'aurais plus fumé. J'ai fumé cette cigarette presque avec... comme un jeune homme qui fume. La tête m'a tourné, mais je me suis dit, puisqu'il me l'a dit. C'est idiot de dire que je ne fumais plus, je n'avais plus besoin de fumer. Ça a été très pénible, mais je ne fumais plus. Depuis 2 ans, je ne fumais plus.
Et ça, c'était à quelle époque, la tuberculose?
J'avais 40 ans, voyons. En 51.
Je pensais que vous étiez jeune homme.
C'était après la guerre.
C'était après la guerre.
Et il m'a dit que ça provenait... Parce qu'il m'a dit, vous n'êtes pas un type à avoir la tuberculose, que ça provenait probablement de la sous-alimentation et prisonnier, et après la guerre, ou à Perpignan, vraiment, on n'avait rien.
Et donc, à ce moment-là, vous avez été allongé 6 mois.
Oh, j'étais allongé 6 mois, et puis j'ai fait une convalescence à Saint-Gaudens, parce que le climat m'avait tendu, était bon. J'ai commencé à faire 100 mètres, puis 200 mètres, souvent après une promenade, je me disais, si j'arrive au bout de cette promenade, ce sera merveilleux, c'était une promenade qui avait 500 mètres de long. Non, et puis je me suis complètement rétabli, enfin, je crois, puisque depuis le temps.
Vous m'aviez dit que vous aviez regardé beaucoup pendant que vous étiez couché, que ça avait joué un grand rôle, cette période d'immobilité.
Oui, j'étais couché si longtemps... Et tout ce que j'avais, c'était le cadre d'une fenêtre, et j'ai appris à regarder la pluie, puis le soleil, puis les toits mouillés, puis deux filles qui habitaient en face, qui rentraient le soir, qui passaient leurs chaussures blanches. Vous savez, là, j'ai compris Flaubert a une phrase absolument merveilleuse, il dit, pour que quelque chose devienne intéressant, quelque chose sous-entendu, n'importe quoi, il suffit de regarder assez longtemps. Et ça, à mon avis, c'est ça. Et on dit comment écrivez-vous souvent, à partir de souvent ce que j'ai devant ma fenêtre. L'acacia, ça commence, pas l'acacia, ça finit comme ça, mais l'histoire commence par l'acacia de Perpignan. J'avais devant moi. Écrire quoi? Parce que la bataille de Pharsale, et bien c'est exactement. J'étais à Paris, là, dans l'appartement, l'autre appartement, c'est. Celui qui donne sur la rue Gracieuse dit, ben, un oiseau est passé entre le soleil et moi, ben, je lui dis, voilà, je commence à écrire, on va bien voir ce qui va venir.
Ah, l'oiseau blanc,
le colombe, oui, noir, puis jaune, enfin, oui. Et puis voilà, qu'est-ce qui va venir, on va voir ce qui va venir. Je crois que cette parole de Flaubert est capitale.
Tout à l'heure, vous parliez de Stendhal, vous disiez que vous n'aimiez pas particulièrement Stendhal, et pourtant c'est un des auteurs dont je vous ai le plus souvent entendu citer certains textes.
Il y a quelque chose de stupéfiant, qui est l'ancêtre de tout le nouveau roman, c'est la bataille de Waterloo. Bon, mais dès que la bataille de Waterloo est finie, c'est la description, c'est le récit de description de ce qui se passe en une journée. Ça dure, je crois, trentaine de pages. Tout d'un coup, le temps change. On a l'impression que c'est un autre auteur qui se met à écrire, parce que en une page, il se met à dire, voilà, le reste du voyage, c'est après Waterloo, il n'y a rien d'intéressant. Pourquoi est-ce qu'un voyage n'a rien d'intéressant? C'est toujours très intéressant, un voyage. Un déplacement dans l'espace et dans le temps. Et puis alors, Fabrice souffrait beaucoup du coup de sabre qu'il avait reçu à la cuisse. Il passa 15 jours dans une famille complimenteuse et avide. Il avait des pensées profondes. Enfin, tout d'un coup, il raconte, alors qu'il vient de passer, consacrer 30 pages au récit d'une journée, un mois est raconté en une page avec une profusion d'adjectifs de valeur invraisemblables. Et banal, la famille d'aubergistes complimenteuse et avide. C'est pas très original, hein. Et puis alors, il y avait des pensées profondes, on ne sait pas lesquelles. Et ben, il changea de... Alors là vraiment, je n'aime pas, non. Et puis, ça m'ennuie. Ça m'ennuie, et le reste de la Chartreuse de Parme, moi, je n'y vois qu'un... Je n'ai jamais su voir qu'un roman de cap et d'épée. Hein.
Cette fameuse bataille de Waterloo, ancêtre, ou point de départ...
Ah oui, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend rien. C'est comme nous sommes tous devant la réalité, entre guillemets. Nous ne savons pas. C'est un témoignage tout à fait subjectif. Il n'écrit pas les manœuvres. Fabrice est là. Ensuite, dans ce cas-là, il n'y a pour ainsi dire pas de description. Là, c'est plein de descriptions, je me rappelle. Il y a un mort qui a les pieds sales, il y a un soldat qui a des cheveux jaunes, en fait, les lignes rouges des Anglais. Enfin, on la voit, les gerbes de boue que projettent les obus. Alors qu'ensuite, dans ce cas-là, il n'y a pas de description, ou alors elles sont tout à fait conventionnelles.
Et vos livres, vos auteurs de formation, de prédilection.
Prédilection, ben, il y a, alors, par ordre chronologique, si vous voulez, il y a Dostoïevski, qui est, à mon avis, peut-être le grand ancêtre de la littérature moderne, dans le sens que, au lieu de cette fable, qu'est le roman traditionnel, puisque, toujours, il y a une situation de départ, une situation d'arrivée, que Faguet, je crois, appelait le couronnement logique du roman, et d'où se dégage une morale. Et les personnages sont assez univoques. Il y a toujours l'ambitieux, la femme adultère, l'avare, enfin, ce sont des caricatures. Et qui sont toutes d'une pièce. Tandis que chez Dostoïevski, on ne sait jamais si un personnage est bon ou mauvais, on ne sait jamais si Mnichin est complètement idiot ou suprêmement intelligent, n'est-ce pas? On est toujours dans cette espèce d'ambiguïté du monde, n'est-ce pas? Il n'y a pas de leçon qui se dégage d'un roman Dostoïevski. Sinon, peut-être les posséder.
Et après Dostoïevski, les grands moments littéraires?
Alors, cette grande révolution qui s'est passée à la fois dans la peinture, dans les arts, dans la littérature, et qui a une date assez précise, c'est 1913. C'est lorsque Picasso est passé du cubisme qu'on a appelé le cubisme analytique, qui dérivait de Cézanne directement, vous savez, ces tableaux assez monochromes avec des horizontales ou des obliques, n'est-ce pas, qui se construisent, qui sont à lire d'ailleurs dans un sens vertical. Et il est passé brusquement de ce style à ce qu'on appelait le cubisme synthétique, c'est-à-dire une réunion de fragments, un fragment de guitare, un fragment de verre, un fragment de journal, vous voyez toute cette période. À ce moment-là, Proust écrivait Swann, et à ce moment-là, puisque ça a été écrit pendant la guerre, Joyce commençait à écrire Ulysse. Et alors là, c'était la fin tout à fait du roman traditionnel, enfin, tout à fait, pas tout à fait, puisqu'il continue, il y en a plein les librairies. Enfin, dans ce que j'appellerais la littérature non pas moderne mais vivante, ça a été vraiment le grand choc. Je crois que c'est une 1913 est une date assez étonnante, à la fois en peinture et en littérature. Et puis alors, Kafka, si vous voulez, et puis alors si vous voulez remonter, pour moi aussi, Conrad est un type énorme, Chekhov, voilà. Voilà, si vous me demandez les auteurs. Mais enfin, il y a eu une enquête d'un ado là, qui m'a demandé au printemps dernier, l'auteur que je mettrais au-dessus de tout, quand même je mettrais au-dessus de tout Proust, à mon avis, qui répond pour moi complètement à l'idée que je me fais de la littérature en tant qu'art.
Et Faulkner, dont on...
Faulkner est un type énorme, il m'a appris beaucoup, je lui dois beaucoup. Faulkner avec Proust, peut-être, ce sont les deux génies de la description, n'est-ce pas? Et Faulkner il m'a appris dans ce sens, il m'a aussi appris ce qu'il ne faut surtout pas faire. C'est-à-dire ces discours infinis un peu macaroniques, plus ou moins philosophiques, avec une morale, vous savez, tout le mal vient des femmes, la fatalité, Qu'a dit qui est voué au péché, Alors là, tout cette espèce de...
Le bruit et la fureur.
Oui. Oui. Il y a même quelque chose qui est désarmant chez Faulkner. Non. Il a écrit, il n'a jamais publié, mais elle a été publiée dans la Pléiade. Il a écrit un projet de préface pour Le bruit et la fureur. Et ça, c'est très intéressant parce que... Attention, madame, ne pas supporter les poils des chats, parce que... Oui, ils sont brûlés. Oh, c'est amusant. Et c'est très intéressant parce que je l'ai reconnu un peu par cœur. Il écrit un moment, c'est très intéressant parce que ça il vend la mèche du romancier traditionnel, du romancier académique. Il écrit littéralement, si on avait envoyé les enfants et les petits nègres jouer dans le jardin, c'est afin que ils puissent voir la culotte souillée de Caddy montée dans l'arbre. Caddy qui plus tard va être un nymphomane, etc. Et on avait envoyé, c'est pas Madame Compson qui a envoyé les enfants afin qu'ils voient la culotte souillée de Caddy. Le on, c'est Faulkner. Et ben c'est le romancier Dieu qui décide, qui ceci, cela, et alors il le met on avait envoyé. C'est lui qui a envoyé. Pour nous montrer que Caddy était déjà damné à 4 ans, parce qu'elle avait sa culotte souillée. Non, c'est très intéressant, ça. Très intéressant.
Et donc, vous le voyez comme un écrivain académique.
Prodigieux, sous l'angle de la description, c'est prodigieux. Mm. Prodigieux. Mais alors, ce moralisme, tous ces discours puritano-philosophiques étaient terribles. Pour moi.
Est-ce que vous êtes superstitieux, Claude Simon ?
Non, pas particulièrement, non. Non, superstitieux, toucher du bois, je ne sais pas pourquoi, moi qui ne suis pas du tout. Voilà, c'est la seule.
Alors c'est ici au fort de Sals, on est à combien de... On est à quoi, 500 mètres du village
On est à 500 mètres du village, et ce fort avait été commencé par Ferdinand d'Aragon, Isabelle la catholique, et il a été inauguré par Charles Quint, et comme vous voyez, il protégeait l'entrée de l'Espagne, parce que les corbières qui sont là derrière, qui n'ont l'air de rien, étaient absolument impénétrables, impossibles à traverser, et l'étang arrivait jusqu'à la voie ferrée, vous voyez. Mmh. Alors il tenait absolument le passage. D'ailleurs, ensuite ce sont les Français qui l'ont occupé, et les Espagnols ont fait le siège, ils n'ont pas pu le prendre non plus. Et que vous dire encore? Oui, vous voyez, il est super. Autrefois il y avait un donjon que Vauban a abattu, non pas que par esprit de vengeance ou de rétorsion, mais parce qu'il jugeait que ça rendait le fort trop vulnérable. Alors il est amputé de son donjon qui était là-bas. Comment c'est une, à mon avis, une formidable construction. Mais alors, ce n'est pas un château, contrairement à ce qu'ils disent dans l'entreprise Sals, le château. C'est pas un château, il n'y a jamais eu de château, c'était une forteresse.
Ça doit être Sals, la forteresse.
Hein. Oui, ça doit être Sals, la forteresse. Voilà.
C'est ici que vous venez marcher tous les matins?
Tous les matins, je marche ici. Ici, je fais le tour du port. Et à Paris, je fais le tour du Jardin des Plantes. Je préfère ici quand même. Je crois que le Jardin des Plantes est magnifique, et surtout en automne.
Est-ce que vous avez décrit ce paysage dans vos livres ?
Non. Non, jamais.
Jamais.
Non, non. Non, c'est...
Pourtant, il imprègne...
Non, j'ai décrit le Perpignan, mais ici, non, jamais.
Même pas le fort.
Non, non, même pas le fort, non, non. Je ne fais pas l'archéologue, donc, ici. Non.
Et vous jouiez dans les
fossiles? Quand j'étais gosse, ce n'était pas encore les monuments historiques qui s'étaient occupés de ça, c'était ouvert à tous les vents, là. Oui, ça c'était magnifique. Maintenant, il y a un guide, il faut faire une visite interminable. Mais en France, c'était ouvert. C'était d'ailleurs assez dangereux, ça terrifiait nos parents.
Si, c'est un paysage qui est menacé.
Eh oui, vous voyez là-bas, tout ça a été classé. Tout ce qui est à l'ouest du fort a été classé, en protection du fort. Et tout ce que vous voyez là-bas, tous ces jardins, tous ces arbres, c'est menacé maintenant par le nouveau COS d'être une zone touristique.
Donc ils abattraient tous ces arbres,
ce serait un massacre.
D'ici, on voit les Pyrénées.
Oui. La dépression là-bas, c'est le col du Pertus, pour passer en Espagne. C'est la frontière, la ligne de crête, c'est la frontière. Et puis alors à droite, vous avez le Canigou, qui n'est pas très haut, il fait 2700 mètres. Mais comme il sort de la plaine, comme ça, oui, c'est une impression assez grande. Maintenant, il est déjà enneigé. Méfiez-vous si vous allez par là.
Et donc, quand on regarde dans cette direction-là, on voit l'Espagne.
La ligne de crête, c'est la frontière.
Oui.
C'est la frontière. Et alors, au bout, là-bas, au bout, c'est Collioure, c'est Port-Vendres.
Oui.
Vous voyez ? Tout à fait, les Pyrénées tombent dans la mer. Là, il y a une immense plage qui part de... Parce qu'il y a 50 km de plage qui aboutit là, contre les Pyrénées. Mmh. Ensuite, il y a Cadaqués, derrière le cap Creus, en fait. Et paradoxalement, alors que ces montagnes semblent plus hautes, l'ancienne frontière de l'Espagne, c'était ces montagnes qui n'ont pas l'air si hautes, les Corbières, mais passage obligé entre l'étang et le... Et les collines, il n'y avait pas d'autre passage que ici et en bas, les deux extrémités des Pyrénées. Ce n'est plus Perpignan maintenant. Mais c'était une très belle ville, une ville médiévale, renaissance, à laquelle s'était superposée une ville 1900 qui était ravissante, avec des cafés, avec des céramiques, vous savez, les femmes iris, les choses comme ça. Il y avait un grand café qui s'appelait le Palmarium, qui était comme les sorties de métro de Guimard. Tout ça a été détruit à coups de pioche pour mettre du formica à la place. En fait, c'est un désastre. C'était une ville qui était plantée de platanes. Et pour faire Côte d'Azur, ils ont mis des palmiers partout. Maintenant, c'est effarant.
Mais il y a toujours à Perpignan la maison de la famille, l'hôtel particulier de votre grand-mère.
Toujours. Rue de la Cloche d'Or, c'est une petite rue qui pend, c'est tout à fait dans le centre. Et j'avais la moitié, j'en ai vendu la part à ma cousine et je suis venu m'installer ici.
C'était pas dans cette, justement, dans un placard que vous aviez retrouvé
Si, c'était là, justement. Quand j'ai vendu ma part à ma cousine, elle a fait retaper la maison, il y avait un grand escalier, elle a fait retapisser l'escalier pour s'en enlever les couches de vieille tapisserie, et derrière ces couches de tapisserie, on a trouvé ce placard où étaient tous les documents, tous les papiers, la correspondance du général à Comte Saint-Michel, qui avait été caché parce que, comme je le dis je le raconte dans les Géorgiques, lui était jacobin et son frère était royaliste et son frère avait été fusillé sur une loi, d'après une loi qu'il avait faite lui-même, que tout émigré ait pris des armes à la main en France serait fusillé. C'est fantastique. C'est une histoire que, vous parliez de Faulkner, Faulkner lui-même n'imaginerait pas. Les deux frères dans les deux camps ennemis, le jacobin et le royaliste.
Et vous, vous descendez du jacobin ou du royaliste?
Du jacobin. Du jacobin.
Vous n'avez pas un grand-oncle insoumis du côté du Jura?
Si, si, si. Alors, c'est très drôle parce que du côté de ma mère, c'était toute cette kyrielle de généraux, empires, etc. Et du côté de mon père, on gardait le souvenir dans cette famille de paysans de franc-comtois d'un oncle qui s'était pendant 6 ans caché dans des granges et dans les forêts pour échapper aux généraux de Napoléon, pour échapper à la mobilisation. Vous voyez, les deux familles étaient plutôt aux deux extrêmes. Autant le général était une fierté pour ma famille maternelle, autant l'insoumis était une fierté pour ma famille paternelle. On en parlait comme du héros de la famille. À juste titre.
Comme vous disiez une fois, à quoi bon inventer?
Ah.
Quand la réalité est déjà tellement extraordinaire.
Ah oui, la réalité me semble dépasser la fiction, mais de très loin. De très loin, regardez. Dans des histoires de Faulkner romantiques, mais qui aurait inventé cette histoire des deux frères s'entretuant, quoi, pratiquement, appartenant tous les deux à une époque vraiment à une époque de violence.
Les Géorgiques. Il a 50 ans. Il est général en chef de l'artillerie de l'armée d'Italie. Il réside à Milan. Il porte une tunique au col et au plastron brodé de dorures. Il a 60 ans. Il surveille les travaux d'achèvement de la terrasse de son château. Il est frileusement enveloppé d'une vieille houppelande militaire. Il voit des points noirs. Le soir, il sera mort. Il a 30 ans. Il est capitaine. Il va à l'opéra. Il porte un tricorne, une tunique bleue pincée à la taille et une épée de salon. Sous le directoire, il est ambassadeur à Naples. Il se marie une première fois en 1781 avec une jeune protestante hollandaise. À 38 ans, il est élu membre de l'Assemblée nationale à la fois dans les départements du Nord et du Tarn. Pendant l'hiver 1807, il dirige le siège de Stralsund en Poméranie suédoise. Il achète un cheval à Friedland. C'est un colosse. Il écrit plaisamment à un ami qu'il a pris trop d'embonpoint pour sa petite taille de 5 pieds 9 pouces. En 1792, il est élu à la Convention. Il écrit à son intendante Batti de veiller à regarnir les haies d'épines blanches. Expulsé de Naples, il doit affréter précipitamment un navire génois pour s'enfuir. Il s'associe avec un nommé Garrigou pour l'exploitation des mines de fer de la vallée de l'Aveyron. Il vote la mort du roi. Il est représentant du peuple en mission. Il porte un bicorne orné de plumes tricolores, un uniforme à parements rouges, des bottes à revers et une ceinture également tricolore. Le 16 Ventôse de l'an 3, il entre au comité de salut public. De Milan, il règle le cérémonial de la visite de l'empereur dans le royaume d'Italie. En pleine terreur, il est élu secrétaire de la Convention et sauve une royaliste qu'il épousera en seconde noce. Un rapport dit de lui qu'il est d'une santé de fer et d'un courage à toute épreuve. Pendant plus d'un an, il tient tête en Corse avec moins de 1200 hommes aux insurgés paolistes soutenus par les escadres de Hood et de Nelson. Il est blessé à la jambe à Farigny. Le navire sur lequel il s'est embarqué à Naples est capturé en mer par un
les auditeurs. Alors c'est vous qui parlez.
Oui. France Culture, le bon plaisir de Claude Simon. Une partie de votre œuvre, qu'on prenne la route des Flandres, qu'on prenne le Palace, qu'on prenne les Géorgiques, qu'on prenne l'Acacia, sont directement liés à des grands événements historiques.
Mais j'ai été dedans. C'est pas de ma faute, je suis né en 1913, par conséquent, mon père a été tué en 14, j'ai fait la guerre de 40, j'ai été mêlé à tous les événements historiques de ce siècle. Y compris j'étais en Espagne au moment de la Révolution, et puis qu'est-ce qu'il y a eu encore, la guerre d'Algérie où j'ai signé le manifeste de décembre 21. Enfin donc, bon gré mal gré, j'étais dedans.
C'est ce que vous appelez avoir la vie d'un Européen de cette époque, d'un Européen moyen.
Oui, exactement, un Européen moyen. Il y a eu des milliers d'hommes comme moi, des milliers.
L'histoire de la guerre d'Espagne, c'était quoi? C'était une aspiration à participer à des événements?
Oh, vous savez, si vous me demandez de pourquoi ou de comment, j'ai de la sympathie pour ces gens, plutôt que pour les militaires espagnols. Quand je suis arrivé là-bas, Barcelone était entièrement en main des anarchistes. Entièrement.
Et vos sympathies étaient du côté des anarchistes, des communistes, des trotskistes?
Bon, écoutez, mes sympathies, elles étaient vagues. Non, je n'étais pas allé pour m'engager, non, non. J'étais allé pour voir, et puis je connaissais un peu le monde des pêcheurs, des choses, enfin, et ensuite j'ai vraiment demandé de faire passer un cargo d'armes.
Les armes venaient d'où?
Ah, les armes venaient de France. C'était des petits obusiers tranchés et des mitrailleuses. Et ça avait été chargé à Marseille sur un cargo norvégien. Et entre-temps, après le chargement, la Norvège avait adhéré à cet accord de non-intervention qui était une duperie que Blum avait signé, que les Français avaient signé, et les Anglais avaient signé, les Anglais qui étaient doutes sur cette question-là, et que les Allemands et les Italiens ne respectaient absolument pas. Mais alors, une fois ce chargement fait, le capitaine du bateau norvégien a dit « Moi, Norvégien, maintenant, je ne peux pas, mon gouvernement m'interdit d'aller à Barcelone, d'aller en Espagne. » Et alors là, j'avais été à Barcelone, j'avais trouvé un cargo qui était commandé par un capitaine anarchiste, un type extraordinaire, qui était un bandit et qui avait fait la contrebande de tout, enfin, avec un équipage d'anarchistes, et que j'avais amené à sec, enfin, c'était... Et on avait transbordé toute la cargaison de cet énorme bateau norvégien sur ce petit cargo espagnol, ça avait été toute une histoire, et finalement c'est arrivé. Voilà.
Et donc, une fois le cargo arrivé, vous êtes resté en Espagne, vous êtes rentré?
Non, je suis rentré, oui.
Déçu?
Je ne peux pas dire déçu, je n'ai jamais été un fanatique pour rien. J'ai toujours été un amateur, aussi bien en peinture qu'en littérature, qu'en contrebande. Ou en politique, je n'ai jamais eu de grandes déceptions, ni de... Peut-être que j'ai un tempérament trop... Je sais pas, foi.
Espagnol, la guerre, la captivité, la maladie. Qu'est-ce que ces expériences montraient à ce curieux que vous étiez?
L'envers de la vie. L'envers de la vie. L'autre côté. Et ça ne se voit que... C'est pour ça que ce sont des choses... La maladie est aussi quelque chose d'assez extraordinaire. Hein. À l'hôpital, peut-être vous n'avez pas été malade. Moi, j'étais plusieurs fois malade.
C'est ça qui vous intéresse, c'est l'envers de la vie.
Oui, c'est des choses qu'on ne soupçonne pas, qu'on cache derrière un maintien, derrière... Et tout d'un coup, la violence se libère, ou l'érotisme aussi. Toutes ces choses qui se sentent derrière cette espèce de civilisation. Et tout d'un coup, ça éclate. La première fois qu'une bombe est tombée à côté de moi, j'ai été absolument ahuri. Ma réaction, curieusement, je ne sais pas vous dire que je n'ai pas eu peur, j'ai eu très peur à la guerre. Mais ma première réaction, c'était l'indignation. J'ai dit, mais on veut me tuer. Mais c'est sur moi qu'on... Mais qu'est-ce que j'ai dit? Et pourtant, je savais que j'étais là pour ça.
Votre traducteur anglais, Fletcher, m'avait dit, Claude Simon, c'est un des plus grands écrivains érotiques.
Oui, pourquoi pas, mais érotique. On m'a souvent posé la question, parler de ça comme, aussi bien comme on parle d'un oiseau, comme on parle d'un arbre, comme on parle d'un nuage, comment en parler. C'est, encore une fois, je vous parlais de cet humanisme, hier qu'on ne peut plus soutenir, après le discours humaniste après Auschwitz, et ce retour au concret. N'est-ce pas? Et l'érotisme, l'amour, le coït faisant partie des choses, comme les oiseaux, les arbres, non plus l'homme sacré avec le péché, etc. L'homme parmi les choses, et parmi l'érotisme aussi, parmi les choses de la chair. Comme il est, comme il respire, comme il mange, comme il boit, comme il voit le ciel, comme... tout ce... vous savez, le reproche, c'est dans Eliphore qui a écrit une magnifique histoire de l'art, et c'est pas moi qui vais en dire du mal. Mais il fait le reproche aux peintres allemands de la Renaissance, en particulier à Dürer, le même reproche qu'on nous a fait de nous attacher aux détails, à la description, n'est-ce pas? Il dit qu'un type comme Dürer va accorder autant d'importance, ou les peintres allemands de la Renaissance, autant d'importance au dessin d'une hallebarde ou d'un beffroi qu'au dessin de la figure de la foi ou de l'espérance, n'est-ce pas? Voilà, en plein l'humanisme, n'est-ce pas? Et il dit, le détail empêche de saisir l'ensemble, ce qui est absolument faux. Je pense à Bruegel en particulier, vous voyez la montée au calvaire de Bruegel, eh bien vous êtes, pour trouver le Christ, il faut chercher au milieu d'une centaine de personnages, n'est-ce pas, qui ont la même taille, tandis que, évidemment, là, chez les Vénitiens ou chez Rembrandt, il est éclairé d'une certaine façon, on ne voit que lui. Et voilà alors cette autre version de s'attacher à tout. Dubuffet aussi, je me suis rencontré avec Dubuffet, je ne sais pas qui l'avait dit, l'homme parmi les choses, non pas au centre, au sommet de tout, parmi le monde.
Sans hiérarchie.
Sans hiérarchie.
Le sexe ou les éléments de la sexualité étant décrits de la façon la plus concrète,
oui.
Comme le reste.
Et comme le reste. Et ils existent comme le reste. Alors ça c'est difficile parce qu'il faut éviter le ton lyrique, le ton passionné, le ton, et aussi qui est très dangereux, le ton dérisoire, aussi la dérision, etc. C'est plus difficile à décrire que le reste parce qu'il y a un ton à chercher qui est assez délicat. Parce que tout petit écart peut faire dérailler.
Histoire. Imaginons quelque chose de faunesque, quelque chose avec de l'herbe, des feuillages, peut-être à cause des champs de course, des haies, et pas un homme, mais une sorte de créature hybride aussi, moitié étalon, moitié homme, s'avançant ou sautillant maladroitement, à la façon d'un caniche debout sur ses pattes de derrière, ses bottes semblables à ses prothèses d'infirmes, faites de bois de fer et de cuir, comme on peut en voir dans les vitrines des orthopédistes, ou suspendues parmi les béquilles, aux flancs noircis par les cierges, suintant de la grotte miraculeuse autour de la blanche et virginale statue de plâtre, comme s'il était monté sur des sortes de jambes artificielles terminées par des sabots, avec tendu en avant de lui un long membre de chien ou de singe, rouge vif dans le verdoiement des buissons, terminé par une boule, un rognon bleuâtre, l'enfonçant, roide, enflammé, colonne de porphyre où pêlaient ses marbres veinés, pourpre, quand je le retirais d'elle, barbouillé de sang, couvert d'un lacis, d'un réseau, entre la rouge amarante, enserrant des îles pâles, sang des colombes, son corps blanc étendu derrière les buissons, la forêt descendant le flanc de la colline, sa lisière atteignant le verger qui s'étendait derrière la guinguette, elle pas plus émue ni troublée que si elle n'avait fait que ça depuis sa naissance. L'ogive de son ventre étroit, dénudé, impudique, se relevant, entreprenant de me l'essuyer maladroitement avec son mouchoir, l'âne d'apulée, copulée, moi vaguement écœurée, déflorée parmi les fleurs sylvestres, découvrant après, sous ma veste, que j'avais étendue pour qu'elle se couche dessus, l'herbe aplatie par le poids de nos corps, les brins entrecroisés se soulevant alors légèrement, d'un demi-centimètre environ, comme une lente et végétale respiration. Sur notre droite, très haut, dans un arbre, un oiseau chantait à intervalles réguliers. Un autre lui répondait très loin, quelque part, comme un écho. Quelques nuages passaient, glissaient derrière le lacis compliqué des branches.
Accepteriez cette proposition de lecteur qui serait que quand on entre dans vos livres, on est à l'intérieur de l'élément, on est en contact avec l'élément.
Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup.
Qu'il s'agisse des objets ou qu'il s'agisse de la langue, on est dans la matière.
Ça, c'est la meilleure lecture qu'on puisse faire de mes livres. C'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire.
Actuellement, vous avez un livre en cours.
J'ai toujours un livre en cours. J'ai des choses en cours. J'écris des choses et puis, à un moment donné, je me dis, est-ce que ça va pouvoir faire quelque chose? Le titre provisoire de tous mes bouquins, ça pourrait être matériel de construction. Et puis, au bout d'un moment, quand j'ai assemblé un certain nombre, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec ça?
Vous en êtes au stade de rassemblement de matériaux?
Ah non, pas encore. Non, je suis encore au stade d'amasser les matériaux. Vous savez, je vais vous rapporter le propos de Soulages, là. Parce qu'à un moment donné, j'avais dit assez bêtement dans une interview que je travaillais d'une façon artisanale, enfin. Et cela, je me dis très justement, tu dis une connerie. Parce que un artisan, c'est exactement ce qu'il va faire. Il va faire telle table, il va faire tel soulier, il va faire tel meuble. Nous ne savons jamais ce que nous allons faire. C'est absolument juste. Alors, vous me demandez qu'est-ce que, je sais pas. Quand ce sera fini, je vous dis. On me dit Soulages, quand c'est fini, ou je garde la toile ou je la déchire.
Pierre Soulages, vous êtes un ami intime de Claude Simon.
Intime, un ami proche, et un voisin. Nous sommes voisins ici, à Paris, la place Manche n'est pas loin de mon atelier, dans le Midi aussi, Salles ce n'est pas très loin de Sète, mais voisins aussi, pas seulement physiquement. Je crois que ce que nous pensons de l'art et les rapports de l'art avec l'anecdote par exemple, sont très voisins. Et puis il y a peut-être d'autres voisinages encore, mais...
Quand vous vous voyez, vous parlez peinture ou vous parlez littérature?
Oh, de tout. On parle de tout, c'est pas... vous savez, nous sommes, entre autres voisinages, le parisianisme nous est également étranger. Nous ne sommes pas des mondains. Ce que j'aime en tout cas chez lui et chez Claude Simon, c'est qu'il n'y a aucune affectation. C'est un homme vrai.
Il vous parle de vos tableaux?
Oui, parfois. On est assez discret là-dessus. D'ailleurs, il y a une grande difficulté à parler de ma peinture comme à parler de sa littérature. C'est très difficile parce que finalement, ce que l'on éprouve à travers ce qu'il écrit, à travers le texte, c'est une chose pour laquelle les mots manquent. C'est, si ce n'est qu'on peut de nouveau relire le texte. Mais je trouve que ça est cette forme de poésie qui est, à mon avis, la littérature. Et ce n'est pas ce qui se résume par des historiettes que l'on raconte à la télévision, par exemple, et qui sont sûrement très, très amusantes, mais je crois qu'ils sont la part qui échappe à ce que je crois être vraiment les pouvoirs de la littérature. Comme je pense que la difficulté à parler de peinture est assez analogue. Mais il y a un autre aspect aussi de Claude Simon, et je crois pas être indiscret à en parler, mais c'est plutôt à moi à en parler, je crois, ce sont les collages qu'il fait. Je ne sais pas si vous les avez vus.
Je connais ceux de Sals, oui.
Ceux de Sals, oui, moi aussi. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, ce sont des sortes de paravents, déjà des sortes d'objets, ce ne sont pas des choses sur un mur. Alors, ce sont des collages de petites reproductions découpées dans des magazines,
oui.
Qui sont aussi bien des reproductions en tableau de Ingres ou de Matisse que des photographies d'événements ou de personnages de l'actualité. Et tout ça s'est mêlé, collé. Et finalement, je m'aperçois que je suis en train de décrire les choses une à une. Et ce qui se passe dans ce mélange, c'est quelque chose qui ne peut pas se décrire, puisque c'est l'ensemble qui crée une espèce de climat, de poésie, que je trouve très proche de sa littérature.
Avant que vous ne le connaissiez, est-ce que c'était cet élément visuel de son œuvre qui vous touchait ?
Pas du tout. Moi, c'était la littérature que je connaissais de lui. C'était le texte et ce qu'il faisait passer à travers ce texte. J'ai commencé à connaître Claude Simon par la Route des Flandres, je crois. Et puis après, ça s'est approfondi. Je suis comme ça, j'ai pas beaucoup de temps, alors quand quelque chose m'intéresse ou me fascine, comme c'est le cas, je m'y adonne. Moi j'aime la poésie, c'est les choses que je lis le plus facilement, c'est la poésie, et très peu le roman, à part ceux comme très particuliers qu'écrit Claude.
Et quel poète ?
Oh, les poètes contemporains, les poètes de toute la poésie française que je peux connaître. Depuis les origines, depuis même la poésie des troubadours. Depuis, il y a un poète que j'aime beaucoup parmi les troubadours, qui est Guillaume IX, duc d'Aquitaine, qui est un des premiers. Un poème surtout de lui, qui est une profession de foi esthétique. D'ailleurs, qui correspondrait parfaitement à Claude Simon, vous m'y faites penser. C'est un poème qui dit, voilà, je vais faire un poème sur le droit néant, ça se dit en provençal, sur le pur néant. Et en quatre lignes, il exécute tous les lieux communs de la poésie. Il dit, ce sera pas sur moi, sur l'amour, sur la jeunesse. Il m'est venu, ce poème, je l'ai composé, il fut trouvé, pendant que je dormais sur un cheval. Il écrit ça au XIe siècle. C'est le surréalisme bien avant. Tout à fait à la fin, il termine en disant, voilà, mon poème est fait, je ne sais pas sur quoi. Mais je vais l'envoyer là-bas, vers l'Anjou, pour que quelqu'un d'autre me renvoie de son étui la contre-clé. La contre-clé, c'est la deuxième clé qui sert à ouvrir un coffre. Il faut deux clés. Et c'est très bien, c'est le rôle créateur du spectateur, c'est la part que chacun introduit dans l'œuvre qu'on lui soumet. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça c'est le mystère, c'est les sortilèges, dirait Claude Simon, de la poésie. Et c'est tout à fait le contraire de la poésie qui est venue beaucoup plus tard, comme celle de Villon, qui est une poésie à secret. Et c'est complètement différent. Le secret, c'est ce qui aspire à être découvert. En tout cas, c'est ce que quelqu'un cache. Alors que le mystère, c'est l'inconnu. Et ça, je trouve ça superbe et très beau. Et au fond, cette profession de foi esthétique, je ne sais pas si, je crois que j'en parle à Claude, je me demande s'il ne serait pas d'accord.
Ça correspond, ce portrait que vous donnez de vous-même dans l'Acacia, l'apprenti cubiste, l'apprenti révolutionnaire, le dilettante.
Le dilettante, oui.
Le jeune homme...
C'était pas très bien d'être un dilettante, mais enfin, je crois que s'il faut vous qualifier, je le suis, un amateur. D'ailleurs, j'ai publié un album de photos qui s'appelle l'album d'un amateur. Et puis, vous savez, si j'avais pas été amateur, aussi bien en écrivant, j'étais un amateur d'écriture, parce que jusqu'au Nobel, si j'avais attendu ça pour ça pour vivre, j'aurais pu chanter dans les cours, mais mes livres se vendaient à 3000 exemplaires. Ça, c'est tout à l'éloge de mon éditeur Jérôme Lannon, qui a continué à me publier, en dépit de tirages lamentables.
Et de quoi viviez-vous alors?
Ben, j'ai eu la chance d'avoir une petite fortune, ce qui m'a donné... qui m'a donné l'indépendance pendant toute ma vie. Et c'est une chance énorme. Et qui m'a permis d'écrire sans me soucier de savoir si ça se vendait ou si ça ne se vendait pas. Et finalement, c'est arrivé au Nobel. La chance. J'étais poursuivi par la chance toute ma vie. Partout. À la guerre, partout, j'étais poursuivi. Nathalie Sarraute me disait, ah, quelqu'un qui dit qu'il a eu de la chance. Alors, d'habitude, les gens disaient pas une chance. Moi, j'ai été poursuivi par la chance. Mais vraiment, je touche du bois, je suis super... un être inquiet. À la guerre, j'aurais dû être tué 10 fois, en fait. Je me suis évadé sur un coup de chance, en fait. La chance. Je crois tout ce qu'il faut. Et la chance aussi d'avoir le Nobel à 72 ans, parce que ça peut tourner la tête. Il y en a auquel le Goncourt a tourné quand même la tête, qui n'a plus rien écrit après avoir eu le Goncourt.
Et c'est ce jeune dilettante que vous étiez qui entreprend un tour de l'Europe en 37.
Ah oui. Oui, ben j'avais... J'étais à ma majorité après le service militaire, enfin avant, puis là j'ai eu un peu d'argent, au lieu de faire des conneries, j'ai fait tout le tour de l'Europe. Là. J'ai trouvé ça plus intéressant, j'étais en Allemagne, en Pologne, j'ai vu l'Union soviétique en 37, au moment où ça, la répression, c'était au moment où j'étais à Moscou quand on a fusillé Tukhachevski. Mais on n'en savait rien à Moscou, j'ai appris en rentrant à Paris. Alors quand j'étais en Russie dernièrement, on m'a dit, est-ce que vous êtes déjà venu? Je dis, oui, en 37. Ouh là là, j'ai dit 37. J'avais fait tout le tour d'Europe, oui. Je ne le ferai plus maintenant, je sais pas, j'ai 3 mois de voyage, vous vous rendez compte? Maintenant, 3 jours de voyage, je suis crevé. 3 mois de voyage.
Et qu'est-ce que vous aviez perçu de la Russie à l'époque?
Perçu? Oh, je voudrais pas me présenter comme quelqu'un de musicien, mais vraiment l'Union soviétique m'était apparue telle qu'elle était apparue aux gens il y a 10 ans.
Mais quand vous y alliez, quand vous êtes parti, vous pensiez voir un pays...
Curiosité, toujours le dilettante, le curieux, comme j'avais été en Espagne, le voyeur, si vous voulez, curieux. Voyons, c'est intéressant, quand même on parle d'un pays où s'est passé quelque chose d'énorme, allons voir. J'étais avec mon ami, j'étais au Goum, c'est magnifique, vous connaissez? Ah, oh, moi j'adore, c'est une merveille architecturale. Ce sont c'est des grands magasins qu'on a construits vers la fin du siècle dernier, je crois, en face du Kremlin. Et c'est admirable, avec des verrières, un peu comme au Grand Palais, enfin, pas aussi belle, mais enfin, tout est en fil. Et nous étions là, regardés, et mon ami était communiste, alors lui, il notait avec conscience le prix des vêtements. Puis nous avons été abordés par 2 jeunes gens, qui nous disaient, vous êtes français, etc., etc. Et je crois que c'était des flics, enfin bon. Et alors là, ils nous ont présenté des filles, ils nous ont emmenés dans les boîtes, enfin. Là, je crois qu'ils nous surveillaient tout en étant copains, enfin, ils avaient vécu en France, plus ou moins, l'un d'eux, enfin, oui. À Moscou, je n'ai pas rencontré de Russes, mais à Moscou, beaucoup.
Vous aviez le projet d'être écrivain, déjà?
Non, en ce moment, je faisais de la peinture. Non, c'est venu plus tard. Je vous dis, j'ai commencé à écrire 6 mois avant l'hiver qui a précédé la guerre, et qui a précédé la mobilisation. À ce moment-là, je faisais de la peinture chez André Lhote, ce cubiste à la noix, enfin... Et mon ami aussi. Non, mais j'ai eu la chance, alors, une chance énorme, parce que Moscou, c'est fini. J'ai vu Moscou, encore, avec le Kitaï Gorod, qui était en face du Kremlin, ce qu'on appelle le quartier chinois, qui était plein de vieilles constructions, de magnifiques petites églises byzantines, c'est peint de toutes les couleurs. Maintenant, ils ont rasé ce quartier, et ils ont construit un hôtel de, je sais pas, de 20 000 chambres, enfin, une espèce d'énorme chose blanche, enfin. J'ai eu la chance de voir Moscou, très beau encore. L'avenue Kalinine n'était pas... Vous connaissez Moscou? Non. Cette horrible avenue Kalinine qui traverse tout Moscou, ils ont détruit la moitié. qui ressemble à Sarcelles, à peu près. Non, quand j'y suis revenu, là, que j'étais invité par l'Union des écrivains, il y a... C'était avant le Nobel, donc il doit y avoir 6 ou 7 ans. J'ai été consterné quand j'ai vu Moscou, ce qu'était devenu Moscou. Cette Union des écrivains m'a invité à son siège, et là, il y avait une espèce de tribunal, enfin, ils étaient tous assis. Moi, j'étais... il y avait une petite table sur laquelle il y avait une tasse de thé et 3 petits gâteaux, un type de l'autre côté de la table qui m'interrogeait, moi, comme une sorte de tribunal. Et là, il m'a demandé, à un moment donné, quelles étaient mes principales préoccupations. Vous imaginez à quoi il pensait. Je lui ai répondu que j'avais 3 préoccupations principales, qui étaient l'une de commencer une phrase, la deuxième de la continuer, la troisième de la finir. Alors là, ça a fait très mauvaise impression. Il m'a dit, vous êtes un formaliste, avec un mépris total. Bon, enfin, cela dit, on était très aimables.
En octobre 86, vous avez aussi été invité en Kirghizie soviétique, ce qui a été le point de départ de votre livre « L'invitation », pour ce qui s'appelait le premier forum d'Issy-Kul.
Au Kyrgyzstan.
À Frunze.
À Frunze, qui est un endroit au point de vue géographique extraordinaire. Parce qu'il y a cette steppe du Kazakhstan avant, qu'on survole en avion. C'est plat comme ça. Et puis tout d'un coup, c'est énorme, c'est pas encore l'Himalaya, mais c'est le Pamir qui commence tout d'un coup, brusquement. C'est superbe.
Et alors là, le but de cette invitation, c'était de revenir.
Ah, le but, je me demande quel était le but. C'était de faire une motion pour l'an 2000. C'est assez rigolo de voir des types qui se disaient marxistes attribuer une importance énorme comme à l'an 1000 ou à l'an 2000. À l'an 1000, tout le monde croyait que le monde allait... Et alors là, c'était ridicule. C'était ridicule. Je ne sais pas trop pourquoi j'avais été invité. J'avais été invité parce que j'avais eu le Nobel l'année précédente, parce que tous les autres invités étaient des travelers fellows, les compagnons de route, enfin. Il y avait Mulin, qui est très 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 gentil, Arthur Mulin. Mais
Peter Ustinov. Hein.
Il y avait Ustinov, alors le charmant, alors tout à fait charmant, plein d'esprit, nous a fait rire tout le temps. Et puis alors il y avait un peintre éthiopien officiel, il y avait Alexander King, le président du Club de Rome, vous savez, le Club de Rome qui avait fait une étude en 78 de prévisionnel, ils avaient tout prévu, sauf la crise du pétrole, ils avaient tout prévu. En fait, c'était une série de gens comme ça, et moi là-dedans j'étais la borbigaleuse. Et c'était des discussions vases, enfin on était reçus à coups de caviar au petit déjeuner, ça commençait déjà. Et puis des séances où rien ne se passait, sinon des discussions oiseuses. Et la préparation par Aitmatov, qui nous avait soi-disant invités, d'une motion tellement ridicule que moi je n'ai pas voulu la signer. Non pas parce que c'était compromettant, mais c'était de ce style, et les générations futures viendront moissonner les blés dont nous aurons semé les graines. Enfin, je fais rigoler de moi à Paris, si c'est juste une chose comme ça. Enfin, bon, il y a eu des tas de choses ridicules comme ça.
Et alors cette motion, qu'est-ce qui se passe?
Cette motion, je suis arrivé à la faire corriger par Federico Maior dans l'avion du retour entre Frunze et Moscou. Et je suis arrivé à ce qu'on fasse quelque chose qui était signable. Signable, ça ne voulait rien dire, mais il n'y avait plus ces expressions absolument grotesques.
Les moissons.
Et puis alors encore, ils nous ont présenté ça, enfin, après une soirée de ballet, un gavé de caviar, de vodka, à 1h du matin, ils nous présentent ça à signer. Il commence à me dire, il me présente en anglais. J'ai dit, non, en anglais, je ne signe pas. Il avait la version française à côté. Alors, pourquoi il voulait me faire signer l'anglais? C'était incohérent. C'était complètement incohérent. Complètement. Alors là, nous avions été reçus par Gorbatchev. Et c'est là que j'ai rencontré. Et j'avais été frappé parce que ce brave homme, qui était tout à fait charmant, et c'était une pièce comme celle-là, mais en longueur, avec une grande table, il était au bout, nous étions tous autour de la table. Et à un moment donné, il nous dit, maintenant, l'Union soviétique, c'est la démocratie, elle est ouverte culturellement à tout, les films américains, les disques, le jazz, les romans, tout ce qu'on voudra, sauf la pornographie. Alors tout de suite, j'ai pensé à Sade, à Baudelaire, à Flaubert, je me suis dit, bon, je n'ai rien dit, C'était curieux.
Mais vous en avez tiré un livre terrible,
hein? Oh, pas terrible, non, ça aurait pu être 10 fois, je n'ai pas tout dit, parce que ça tourne à la caricature, on aurait dit que je caricature.
Oui, mais quand
c'est
vous...
ce ballet au Bolchoï.
Oui, quand vous parlez de la vieille ballerine qui est suspendue par des fils de fer.
Mais c'était incroyable. C'est une interprète qui m'était louée. Elle a dit, demain soir, on va au Bolchoï, il y a un ballet. Ah, j'ai dit, non, vous aimez la danse? Je lui ai dit, je ne vais pas beaucoup à l'opéra, je ne pratique pas, enfin, ça m'intéressera toujours. Et je lui ai dit, qu'est-ce que c'est ce ballet? Elle m'a dit, c'est la mouette de Tchekhov. La mouette de Tchekhov. Vous connaissez la mouette de Tchekhov qui est toute en demi-teinte. Vous savez, quand il se suicide, on entend simplement un coup de revers dans le lointain. Il y a un d'eux, ils sont en train de jouer aux cartes. Il y a l'un d'eux qui se lève, qui dit, c'est rien. C'est une bouteille qui a explosé dans mon laboratoire. Là, le type se suicidait sur le devant de la scène avec des contorsions. Enfin, c'était quelque chose d'incroyable. Et il y avait cette pauvre vieille danseuse, je crois que c'était la Plessiskaya, qui avait mon âge, peut-être, que j'ai maintenant, c'est plus long. Elle va 80 ans, mais elle avait bien 70. Elle ne pouvait plus danser, elle était portée par ses danseurs. Et alors, c'est, à un moment, ça lui simplifiait la tâche, peut-être, comme c'était la mouette. Elle était suspendue à un fil au milieu de nuages en coton ou en carton, et elle agitait les bras comme une mouette, c'était quelque chose de pitoyable. Alors, il a fallu la féliciter après. Et alors, on nous a amené sur la scène, le rideau était baissé. Et on a vu une pauvre vieille dame avec un châle, comme si elle sortait d'une pièce de Tchekhov, fatiguée, avec un visage. C'était dérisoire.
Qui vous ont marqué le plus dans votre vie?
La rencontre de gens?
Oui.
Difficile de dire qu'il n'y en a eu qu'une. J'ai rencontré des gens tellement bizarres dans toute ma vie. C'est curieux. Qu'est-ce que j'ai rencontré? Je ne peux pas dire qu'une personne m'est particulièrement ébloui. Non. J'ai rencontré Picasso, non, c'est éblouissant, mais enfin, bon, c'est banal à dire. J'ai encore des tas de gens qui m'ont semblé très intéressants, mais je ne pourrais pas vous sélectionner une personne en particulier.
C'est-à-dire aussi bien cette population très diverse que vous avez côtoyée pendant que vous étiez prisonnier.
Là, c'est une expérience assez fascinante. Parce que là, c'est vraiment le melting pot. Et les Allemands avaient groupé dans une baraque. C'est ce qui m'a permis de m'évader d'ailleurs ensuite. Tous les natifs des colonies. Moi, je suis né à Tananarive. Puisque mon père était officier de là-bas, je suis né par hasard à Tananarive. Et alors j'étais dans une baraque où il y avait des Arabes et beaucoup de pieds noirs, et notamment la population oranaise, beaucoup de espagnols, juifs espagnols, et beaucoup de macros de type invraisemblable, qui étaient tout ce que vous voulez, propriétaires de bordel, de contrebandiers, qui ne croyaient ni à Dieu ni à diable. Le jour de Yom Kippour qui est arrivé, c'est la grande fête juive, ils sont tous restés, ils n'ont pas mangé de la journée. Ils se désignaient aux Allemands. Ils se désignent. Et c'était des types qui, je suis sûr, qui de leur vie n'avaient pas mis les pieds dans une synagogue. Ces types ont été formidables. Et il y avait un type, je rappelle encore de son nom, il s'appelait Darmon. Alors vraiment, c'était un macro d'Ajou, un propriétaire. C'était un roi sorti de la Bible, ce type. Il avait une noblesse, il était superbe. Il avait toute sa cour autour de lui, de petits voyous de rang. Mais il était superbe, ce type. C'est un roi. J'ai rencontré un roi dans ma vie, c'était ce type-là. C'était capable de voir parmi sa cour de type, un qui crevait particulièrement de faim, de prendre sa gamelle le dimanche.
Et quelles étaient vos relations avec eux?
Ah, très bonnes avec lui. Moi, je faisais des dessins pornographiques que lui vendait aux Allemands. Alors, contre des paquets de tabac, non, j'ai comme partout j'ai trouvé des trucs, comme quand j'étais à Moscou, le marché noir, là, ces trucs qu'on vendait. Moi, je ne faisais pas le vendre aux Allemands, lui les vendait contre des paquets de tabac, ce qui fait que le tabac, c'était la monnaie, on était riche dans un camp quand on avait du tabac. Non, j'ai connu des gens bien curieux. Mais vous me disiez, peut-être l'homme le plus étonnant que j'ai connu ma vie, c'est ce roi. Il ne savait ni lire ni écrire, je lui lisais les lettres de sa mère, je lui écrivais les lettres. C'est fantastique.
Et comment vous êtes-vous évadé?
J'étais au fond de la sac, j'ai travaillé à des égouts j'ai fait un égout pendant toute la captivité. Pas tout, à la fin j'étais au camp allemand, comme spécialiste électricien, c'est autre chose. J'ai creusé un égout pour relier le camp à l'Elbe. L'automne arrivant, les Allemands ont dit qu'ils allaient raccompagner et qu'ils allaient ramener en France tous les indigènes. Parce qu'ils ont dit que le climat allemand sera trop dur, c'était pour faire leur propagande dans les colonies, ils espéraient mettre la main sur les colonies. Alors moi, au culot, j'ai trouvé l'officier allemand, je lui ai dit, moi, Madagascar, il me regarde, il me dit, blue eyes, les yeux bleus. Ouh là là, je me suis dit, tout s'écroule. Et alors là, j'ai eu vraiment on a du culot, quand on est, j'ai beaucoup, on risque tout. J'ai eu un trait de génie. Je lui ai dit, oui, j'ai les yeux bleus, mais j'appartiens à la race ouvre. Ce sont les hauts plateaux. Ce sont des Indo-Européens. Les Noirs, c'est vrai. Les Noirs, c'est la côte, et sur les hauts plateaux, ce sont les Houes qui sont des Indo-Européens. Je suis Indo-Européen, je suis où? Est-ce qu'il m'a cru? Est-ce qu'il m'a pas cru? Est-ce que c'était un bon bougre? Il m'a mis sur la liste. Et alors, j'ai passé 3 jours et 3 nuits dans un wagon. On était 40, alors que quand on était allé en captivité, on était 80 dans les wagons. Alors là, c'était quelque chose. Là, on n'était que 40. Hommes 40, c'était avec 39 Arabes. Et ils nous ont amenés près de Bordeaux. Je me rappellerai toujours cette arrivée à Bordeaux. On a ouvert les portes du wagon parce qu'il y avait des dames de la Croix-Rouge qui sont venues donner du pain, des choses. Et on arrivait de cet enfer, je n'ose plus dire, c'était un enfer. À côté des camps de concentration, c'était un camp prisonnier, après tout, non? Mais enfin, on arrivait quand même d'un petit enfer. Et on ouvre les portes, et par les portes de la gare, on voit les gens de Bordeaux aussi au café, qui buvaient leur apéritif, donc on s'est dit, ça fait dit. C'était assez ahurissant. Et alors, ensuite, ils nous ont amenés à un camp près d'Andernos-les-Bains, vous voyez. Et ils n'avaient pas eu le temps de prévoir un ravitaillement, ni même de parfaire ce camp, alors que en Allemagne, les barbelés étaient infranchissables du camp. C'était une triple rangée de barbelés, enfin, je vous passe les détails, c'était infranchissable. Là, il y avait simplement des poteaux avec des barbelés, des lignes de barbelés horizontales. Et ils n'avaient rien à nous donner à manger. Et alors, les Arabes, qui sont au feu de tout bois, se sont mis... Le camp était près d'une forêt de chênes, et il y avait des glands qui tombaient. Et ils ont permis aux Arabes, en principe, il était interdit de s'approcher des barbelés. Mais comme ils n'avaient rien à manger, ils ont permis aux Arabes, et par conséquent à tout le monde, de s'approcher pour ramasser les glands que les Arabes faisaient cuire. Alors, le jour même de l'arrivée, parce que je me suis dit, ils vont faire une enquête, ils vont s'apercevoir que tu n'es ni arabe, ni noir, et tu vas te retrouver au fond d'une prison en Saxe, il faut filer tout de suite. Et alors, j'ai fait semblant de ramasser des glands, comme les Arabes. Puis j'ai regardé à droite, j'ai regardé à gauche, j'avais une sentinelle allemande pour tous les 100 mètres. Et ce sont des trucs qu'en fait, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. J'ai filé sous les barbelés, dans la forêt est tout à côté. Et alors, voilà, ça y était. J'ai fait peut-être 100 mètres ou 200 mètres à quatre pattes comme un chien, mais comme un chien. Et puis, j'ai trouvé un autre type. Et là, je me rappelle, la première nuit, non pas pour nous éloigner du camp, puisque avec une auto, c'est vite fait. Je crois que nous avons fait 40 kilomètres, mais pour le plaisir de marcher librement.
Qu'est-ce que c'est ?
Musique que j'écoute. Bon, je peux écouter sans fin les suites pour violoncelle de Bach. Et pour moi, c'est tout à fait subjectif. Tous les quatuors à cordes de Beethoven. Et particulièrement les Rasoumovsky. Les Rasoumovsky, c'est là qui était commandé à Beethoven par l'ambassadeur de Russie, qui était un monsieur Rasoumovsky. Et le premier violon a refusé de jouer en disant que c'était pas de la musique. Voilà. Je crois que le quatuor de Debussy aussi, qui est très difficile à jouer. Et que j'aime beaucoup. J'aime pas beaucoup Debussy, mais le quatuor, je trouve que c'est une splendeur.
Vous écoutez de la musique en travaillant?
Ah, jamais. Ah non. Oh là là. Non, c'est pour moi, c'est pour le silence. Non, ça me semble absolument inconciliable. Enfin. Faut penser que ça me distrairait. Non. J'ai besoin de toutes mes faibles forces pour écrire. Et, contrairement à ce que les gens croient, l'art, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, que ce soit la littérature, ça demande un effort de celui qui la reçoit. Il y a le mot de Michaud qui est magnifique. On lui dit un jour la poésie, on lui dit aussi c'est difficile. Michaud a dit, hein, la poésie, ça se mérite. A dit Michaud, eh oui.
D'écrire en dilettante, puisque c'est comme ça que vous vous définissiez à l'époque. À quel moment est-ce que vous vous êtes entré dans, presque dans le métier d'écrivain?
C'est pas un métier, j'ai écrit, j'ai continué à écrire, j'écris encore, on dit les temps, c'est pas un métier, encore une fois, si je vais gagner ma vie avec ça, je crèverai de faim.
Oui, mais ne faire que ça.
Ne faire que ça, autrefois je faisais plusieurs choses, je faisais ces collages, je faisais de la photographie, j'écrivais, puis peu à peu, vous savez, l'éventail des possibilités humaines se réduit, et finalement j'ai plus fait qu'écrire. Mais toujours en dilettante, c'est pas, je ne sais plus qui me disait, une journaliste me disait, quand est-ce que vous avez décidé d'embrasser la carrière d'écrivain? On ne fait pas carrière dans la littérature, on fait carrière dans la magistrature, on fait carrière dans l'administration, mais pas dans la littérature. C'est pas un métier.
Vous vous sentez toujours un amateur?
Ah ben oui. Ah ben oui, je serais incapable de gagner ma vie par un écrivain. Je ne peux pas écrire un best-seller. Tous les libraires vous le diront, je ne suis pas un best-seller.
Et qu'est-ce que c'est la littérature?
Qu'est-ce que c'est la littérature? Eh bien, écoutez, jusqu'à il y a peu de temps, j'aurais hésité à vous répondre. La littérature, c'est quand le texte devient un objet d'art, ça devient de l'art, touche à l'art. Eh bien, je ne connais pas de meilleure définition de l'art que celle qu'en a donnée Élie Faure. Dans l'esprit des formes. L'art n'a rien à voir avec une finalité morale quelconque. Il est antisocial du point de vue optimiste où la société, du moins la société occidentale, se place. Je veux dire la poursuite du perfectionnement indéfini d'un bonheur unanime que ces constructions imaginaires troublent. Il est immoral dans bien des cas et avant tout pour son exaltation inexorable de l'amour. Il est amoral toujours, puisqu'il cherche à tirer des événements et des objets des harmonies indifférentes à la qualité sentimentale que les moralistes prêtent à ces objets et à ces événements. Il est cruel, même quand il est tendre, puisqu'il accepte, pour réaliser son équilibre propre, d'explorer en tous sens le domaine redoutable des passions. Il joue sans cesse avec la mort. Ben voilà, je crois, la meilleure définition qu'on puisse donner de la littérature, de la véritable littérature.
Et c'est une définition négative.
Et pourquoi négative? Parce que vous êtes moraliste.
Non, c'est-à-dire qu'il définit négativement l'art. L'art est amoral,
oui.
Immoral, asocial,
amoral, oui, puisqu'il établit entre les objets et les événements des relations étrangères à la valeur morale que les gens leur attribuent. La peinture, les relations entre les pommes et une table chez Cézanne, la relation entre un rouge et un vert, la relation entre des mots harmonieux, Baudelaire, Mallarmé, en fait, ça n'a rien à voir avec la morale.
Donc quand vous écrivez, il y a cette recherche de fabrication d'un objet qui soit beau.
Exactement, d'un objet qui soit à peu près équilibré, comme une peinture ou tel événement ou telle chose répond à tel autre, disons pour simplifier, un rouge répond à un vert ou à un autre rouge. Et on me demande souvent quand est-ce que vous considérez que un roman est fini. Ben, je dis quand j'ai l'impression que ça se tient à peu près debout, que ça s'équilibre, que tel volume renvoie à tel volume, que telle couleur renvoie à tel autre. Voilà, c'est vague. On ne sait pas. Je me rappelle, j'ai beaucoup connu Dufy, qui était un peintre mineur, mais qui était quand même pas n'importe qui. Et j'ai eu le privilège de le voir travailler. Et il me disait, voilà, mais est-ce que je m'arrête? Si je mets un rouge là, ça peut me foutre en l'air tout le tableau. Et c'est la question de savoir quand est-ce que c'est fini, quand est-ce que... J'en parlais avec Darache, vous savez, le sculpteur. J'ai dit toujours le sculpteur parce que je le considère plus comme un sculpteur que comme un... Il fait pas de sculpture, mais c'est ces choses monochrome qui fait ses nus. Il me dit, oui, il y a que deux artistes où c'était tout le temps fini. Michel-Ange, les esquisses de Michel-Ange sont fantastiques, la Pietà qui est à Florence, qui est à peine ébauchée, c'est déjà parfait, et Cézanne, dont Renoir disait, cet animal, il ne peut pas mettre trois touches sur une toile sans que ce soit déjà épatant. Alors, quand est-ce que c'est fini? Combien d'esquisses? Je pense à celle de Tintoret, je pense à des toiles inachevées, entre guillemets, de Cézanne, je pense à des esquisses de Rubens, sont beaucoup plus belles que les tableaux finis. Par conséquent, là, c'est...
D'ailleurs, quand vous avez travaillé sur la route des Flandres, vous aviez, parce que là, vous parlez de couleurs, mais vous aviez différencié pour vous, dans votre construction, certains éléments par des couleurs.
Oui, le plan, j'ai écrit des choses, j'écris toujours des choses, comme ça vient. Puis à un moment donné, je me dis, est-ce que ça peut faire quelque chose? Est-ce que ça peut se grouper? Est-ce que ça peut... Alors là, au départ, j'en avais écrit déjà plus de la moitié, c'était des fragments, des petits bouts, c'était le sac sur la route, c'était la nuit avec Corinne, c'était les courses. Et je me suis demandé comment ça pouvait se construire. Et alors j'ai eu l'idée d'attribuer une couleur à chaque personnage ou à chaque thème. Et alors sur des petites bandes de papier, j'ai écrit ce qu'il y avait sur chaque page, et en face je mettais la couleur. Et alors j'ai mis sous ces bandes de papier par terre, et puis j'ai vu à peu près comment je pouvais faire un montage, c'est-à-dire visuellement. Tiens, là il manque du rose. Le rose c'était Corinne. Il y a longtemps qu'on n'a pas parlé, il faudrait la faire revenir. Ça, je suis passé chez Pivot il y a longtemps, il y a quasi une dizaine d'années, avec Boulez. Avec Boulez, nous étions seuls tous les deux, et d'une façon très intelligente et très perplicace, il m'a dit, votre grand problème, ça doit être la périodicité. En musicien qu'il était, il m'a dit, ça doit être, j'ai dit exactement, j'ai mis le doigt dessus.
Et ce principe de composition qui est connu, celui de la route des Flandres, est-ce que vous l'avez utilisé pour d'autres livres?
Ah oui, pour tous les livres, je peux dire, pour tous les livres, mais pas avec les couleurs.
Pas avec les
non.
couleurs.
Non, les routes des Flandres, simplement, j'ai plus assez dans la tête, les autres, je les ai dans la tête.
Mmh. Oui.
Non, je ne l'ai utilisé que pour la route des Flandres.
Mmh.
Vous entendez un oiseau ?
Sculpture, le bon plaisir de Claude Simon. Gérard Robichou, vous êtes un lecteur spécialisé de Claude Simon, est-ce qu'on peut dire ça?
Un peu, comme on dit, des pays. Et le vent a joué son rôle là-dedans. Et donc je suis devenu spécialisé dans la mesure où, le terme est un peu fort, dans la mesure où, ayant lu ce roman, l'ayant beaucoup aimé, et ensuite ayant lu quelques romans qui ont suivi, je me suis rendu compte que c'était une œuvre qui avait une grande puissance d'évocation, de langage, et je dirais de nouveauté dans ce qui était notre littérature contemporaine, puisqu'à l'époque, ne l'oublions pas, on parlait du nouveau roman qui faisait un peu exercice de style, et pour une fois, on avait quelqu'un qui avait vraiment un style et qui ne faisait pas que de l'exercice. Et donc, je me suis mis à étudier son œuvre, que j'ai trouvé d'ailleurs très proche d'une œuvre que j'aimais par ailleurs pour d'autres raisons, et qui était l'œuvre de Faulkner. Et pour moi, si vous voulez, aussi bien la route des Flandres que le vent étaient dans une même lignée, qui était celle, par exemple, d'Absalon. Absalon, qui est une des grandes œuvres de Faulkner. Et j'ai souvent demandé à Claude si ça l'avait beaucoup inspiré dans son écriture. Il n'a jamais voulu l'avouer. Mais je trouve que quand on lit Absalon, surtout dans la traduction française d'ailleurs, on ne peut pas ne pas être frappé par les rapprochements dans ce travail du texte, ce travail de retour en arrière, d'approximation du langage, de reprise, d'évocation du passé, et en même temps de travail sur tout ce qui est la langue. Et ce qui m'a intéressé, à partir de là, ça a été de chercher comment se faisait chez lui, dans cette œuvre, et j'ai travaillé plus particulièrement sur L'Herbe, mais ensuite sur d'autres romans, au fond, la relation entre évoquer quelque chose, puisque son œuvre est pleine de souvenirs, elle est fondamentalement une œuvre de souvenirs, c'est en quoi d'ailleurs on a pu la rapprocher de celle de Proust, mais en même temps qu'il recherche ses souvenirs, il y a un constant travail qui est visible dans l'œuvre, puisque l'œuvre est constamment en train de se remettre en cause dans son écriture, ce qui a pu faire dire d'ailleurs à beaucoup de lecteurs, un peu rapide, que tout ça c'était compliqué, confus, obscur, qu'on ne savait pas toujours qui parlait, d'où on parlait, etc. Et je crois qu'au contraire, c'est extrêmement clair dans cette obscurité. Je crois qu'il y a un travail qui est constant, que l'on sent dans le texte, et qui est un homme qui écrit, qui se souvient en écrivant, et qui écrit en se souvenant. Et c'est là un peu toute la richesse de l'œuvre. C'est pas un livre de souvenirs, c'est pas un roman biographique, c'est pas un roman purement technique. C'est un travail constant de jeu entre écrire et prendre la substance au fond de soi-même, qui est fondamentalement chez lui des souvenirs, des images, des photographies, des peintures, des textes, puisqu'au fond c'est toute une culture qu'il y a dans Claude Simon, qui est sa culture et notre culture, et les reprendre et les travailler sans cesse. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans les derniers romans qu'il a publiés, que ce soit Les Géorgiques ou L'Acacia, au fond, il revient encore à ces grands moments qui sont les deux sœurs qui ont élevé l'enfant, qu'on retrouve dans, qui était déjà dans l'herbe, cette obsession de la mort du capitaine de Réchac, cette obsession de la guerre, si vous voulez, la grande maison, qui est celle de Sals, et qui est la grande maison battue par les vents, qui est d'ailleurs celle de Claude Simon en particulier. Et je crois que c'est un peu ça que je dirais sur lui. Et lorsque nous avons parlé ensuite, d'abord j'ai trouvé un homme extrêmement affable, avec de très beaux yeux. Et ses yeux, c'est déjà son texte, si j'ose dire. C'est déjà un regard sur l'extérieur. Je trouvais un homme très affable, un homme très en retrait par rapport à ses textes. Au fond, sa grande force, c'est son écriture, en fait. C'est quand il écrit qu'il est vraiment, une force qui va, alors qu'au fond, c'est un homme qui est toujours très modeste, très réservé, bricoleur, comme il le dit, mais enfin, c'est du grand bricolage. En plus, il y avait une chose qui était frappante chez lui, et qu'il est toujours, d'ailleurs, mais qu'il était encore plus, je crois, à l'époque de La Route des Flandres et d'Histoire, c'est, je dirais, l'exubérance du langage. Cette puissance du langage, cette puissance du verbe, cette créativité, cette mise en cause de toute la structure de l'expression. Pratiquement, il faisait sauter la syntaxe, il faisait sauter la grammaire, et tout ça, c'était quand même très beau. Si vous regardez ces phrases qui font quelquefois 15 pages.
Et alors ses yeux ?
Ses yeux sont toujours bleus. et c'est vrai que c'est d'abord un regard, Claude Simon, quand vous le voyez, c'est d'abord un regard. Et c'est un homme qui l'écrit. Son œuvre, c'est une tentative de description. Non seulement de restitution, mais de description. Et regardez, le grand texte de La Route des Flandres, c'est quand même la description d'un tableau, qui était celui de l'ancêtre, qu'on lui a malheureusement volé, mais grâce à ce texte, ce tableau est encore plus beau peut-être que celui qui existait, car je l'ai vu, celui qui existait. Il était un peu sombre, et maintenant il a la clarté du texte.
Est-ce que c'est un homme qui est devenu un ami ?
C'est un homme qui est devenu tout de suite un ami. Je peux vous raconter une anecdote sur la première fois où je l'ai vu. C'était donc aux alentours de 1970. J'étais à l'époque, j'enseignais à l'université de Charlottesville en Virginie, aux États-Unis. J'enseignais le nouveau roman, entre autres, dont Claude Simon. Et un jour, j'ai appris que Claude Simon venait à New York pour faire une conférence à l'Institut français. Alors j'ai dit, je vais prendre l'avion et je vais aller voir Claude Simon parce que je voulais le voir. Et nous nous sommes trouvés à l'entrée de l'Institut français avant sa conférence. Il était là tout seul, il venait d'arriver. Je crois que personne ne s'occupait encore de lui pour l'instant. Et moi, je suis arrivé un peu timide et je lui ai dit, vous savez, vous êtes Claude Simon. Je suis Robichou. Il m'a dit, très bien. Et je lui ai dit, vous savez, j'ai une grande admiration pour vous. Ce qui a commencé à l'étonner. Et ensuite, je lui ai parlé, je lui ai dit, voilà, j'ai décidé de faire une thèse sur vous. Il m'a dit, quelle drôle d'idée. J'ai dit, non, pas du tout, je vais faire une thèse sur vous et je ferai ma thèse, ce que j'ai fait finalement. Et nous avons sympathisé comme ça.
Est-ce que vous étiez le premier à faire un travail de thèse sur Claude Simon ?
Je crois que j'ai été le premier à le faire en français. Mais à l'époque, j'étais dans un pays où les gens s'intéressaient beaucoup alors à Claude Simon, car il ne faut pas oublier cela. Claude Simon a eu un très grand public aux États-Unis, et notamment dans le monde universitaire. Les Américains se sont très rapidement intéressés à Claude Simon, et je me souviens qu'il est venu à plusieurs reprises aux États-Unis pendant que j'y étais, dans les années 70, et il était très bien accueilli, moins spectaculairement accueilli que d'autres, parce qu'il a une personnalité plus réservée, plus complexe, etc. Mais son œuvre était déjà l'objet d'un travail sérieux et multiple. Alors c'est très intéressant d'ailleurs, parce que très souvent c'était des travaux qui portaient sur le contenu, la mémoire, le souvenir, la vision des choses, et je sais que ça l'agaçait un peu, quoi. Alors que lui, ce qu'il voyait plutôt, c'était le travail, un travail plus porté sur l'écriture. Mais c'est bien qu'il y a toujours les deux dans son œuvre. Et il y a eu des travaux intéressants, d'ailleurs, qui ont été faits aux États-Unis, avant qu'il ait la consécration ultérieurement, en fait.
Côté du fort, on m'avait dit en, oui, en masse, là, c'est ravissant, oui. C'est ravissant.
C'est pas si bon, hein.
Vous avez... Et alors, regardez, autrefois, tout ça, c'était comme ça, c'était un village minéral. Moi, je l'ai fait blanchir là parce qu'ils sont incapables de refaire ces vieux crépis. Mais regardez, tout ça, c'était comme ça, non?
Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? C'est une sorte de...
C'est la pierre de Corbière.
Mais entre, il y a de la terre rouge.
Non, c'est de la brique. Parce que mon entrepreneur m'a appris que autrefois, c'est comme la photographie que j'ai exposée chez Mag, là ce sont des morceaux de mâche fer. Autrefois, pour pomper l'humidité du ciment, des mortiers, on mettait soit du mâche fer, soit des morceaux de brique. C'était pas pour l'esthétique. Alors il y a la pierre, et vous voyez ces petits bouts de briques. Et autrefois, tout le village était comme ça. Voilà, c'est le désordre.
Le désordre, c'est très relatif quand même. Qu'est-ce que vous trouvez?
Quand j'ai mis de l'ordre.
En prévision?
En prévision.
Donc quand vous êtes assis là à votre table de travail...
Ah, c'est formidable, j'ai un doyer Rousseau dans ma fenêtre. Comme on ne voit plus maintenant la lumière des croix, mais c'est merveilleux ça.
Vous tapez à la machine?
Eh oui, j'ai écrit à la main, puis je tape à la machine, puis je retape, et ça me fatigue de taper à la machine maintenant.
Vous ne vous êtes pas mis aux machines électriques ni...
Mais je vais m'y mettre parce que je fais des fautes de frappe, effacer ça retarde, c'est assommant, revenir en arrière avec les faciles, et je crois acheter deux machines électriques parce qu'il m'en faut une pour Paris, non pas pour faire toutes ces choses compliquées qu'on fait, simplement parce que ça efface.
L'ordinateur, vous n'avez pas...
Ah non, il a dans la tête l'ordinateur. Je ne crois pas qu'on puisse en construire un aussi complexe que ça. En dépit de ce que fait mon ami Cooper qui les a inventés. J'ai participé à un colloque à Berne. Il y avait Steiner, vous savez. Mmh. Et il a dit quelque chose de très juste. Il a dit, c'est les ordinateurs, les machines, elles ont une mémoire, mais elles n'ont pas de souvenir. Très bien ça. Hein? Et là, c'est une mémoire, mais non pas souvenir.
De quoi avez-vous envie de parler?
Ah, moi j'ai pas envie de parler, j'ai envie d'écrire, mais je ne suis pas un parleur, alors faites-moi parler.
Quel est votre bon plaisir?
Bon plaisir, mais qu'est-ce que vous entendez par bon plaisir? Il y a 36 sortes différentes de bon plaisir. Je me rappelle Mais toujours, il y a un disque, je ne l'ai plus, malheureusement, je l'ai perdu. Il y avait un disque de Casals qui s'appelait La Répétition. On avait enregistré toute une répétition, et il avait été à Genève, je crois que c'était tout de suite après la guerre, ou vers la fin de la guerre, pour diriger un orchestre. Alors, ça commençait, ça jouait, et puis Casals s'est arrêté, il tapait avec la baguette sur le pupitre, et il disait, c'est très bien. Vous jouez très très bien, je suis heureux de vous diriger. Mais je sens que vous êtes, peut-être c'est moi qui vous fais peur, que vous êtes crispé comme ça, que vous êtes... Il dit la musique, détendez-vous, c'est un plaisir.
C'est pas des notes plus ou moins expressives, c'est une exaltation. Je parle de la musique, de notre musique. Celle qui nous fait vivre, celle qui nous fait... Nous donne tant, n'est-ce pas, qui nous donne la vie, en fait, ensemble dans le monde. Donc la musique, c'est l'exaltation. Alors s'il n'y a pas cette exaltation, et que ce soit Haydn ou que ce soit Mozart, c'est même jour. Ce n'est pas parce que Bach, n'est-ce pas, c'est une chose tellement tragique, tellement profonde, tellement grande, mais Mozart, c'est la même chose, et Haydn, c'est la même chose, l'exaltation. Alors si on n'entend pas l'exaltation, c'est pas bon.
Par exemple, est-ce que vous allez au Louvre?
Ah oui, j'étais au Louvre. Ben, je vous disais, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui d'un côté était musicienne et de l'autre, mon oncle, par ailleurs officier de cavalerie assez sévère, me menait au Louvre tous les dimanches à Paris.
Et quand vous y allez seul, qu'est-ce que vous regardez?
Ah, je regarde plusieurs choses. Bon, disons que au Louvre. Ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les poussins. Les poussins qui, à mon avis, préfigurent à la fois, il y a du Delacroix et du Douanier Rousseau dans la façon de peindre le poussin. C'est un peintre extrêmement français. Et Cézanne, bien entendu, puisque Cézanne a parlé de faire du poussin sur nature. Et si vous me demandez, alors peut-être le tableau de poussin que je préfère au Louvre, je vous dirais la Peste d'Achereau. À la fois, il y a un climat assez bizarre, de malaise, de la peste. Et puis, au centre, il y a un groupe de personnages qui préfigurent, je dirais, en mieux, de la croix. C'est ahurissant. Non, mais au Louvre, oui, si vous dites au Louvre, c'est Poussin.
Au Louvre, c'est Poussin, oui.
J'étais le seul à dire à Picasso, qui m'a dit, mais personne ne l'a vu avant vous, que la femme de Guernica, qui tient l'enfant avec la tête qui pend, n'est pas qui est agenouillée, et les bras qui pendent, c'est la femme du jugement de Salomon de Poussin à droite. Il me dit, vous l'avez vu, personne ne l'a vu jusqu'à maintenant. Parce que Picasso était un fervent de Poussin. Ce que je regarde, c'est des harmonies de volume, des harmonies de couleur, des harmonies de... Et puis s'il y a un sentiment poétique, car chez Poussin il y a un grand sentiment poétique, c'est en plus que ça vient. La première chose que je regarde, qui me frappe, c'est les qualités plastiques d'un tableau. Je ne cherche pas plus avant de faire une interprétation, soit psychanalytique, soit psychologique ou autre.
Oui, mais même si on ne fait pas d'interprétation, il y a, enfin je pense à Poussin, il y a une dimension énigmatique. On prend les bergers d'Arcadie, par exemple, et l'une
oui,
des...
Oui, mais c'est pas un des poussins que je préfère.
C'est pas un des poussins
justement.
Que je préfère.
Alors voilà, il donne lieu à des interprétations, mais ça m'intéresse pas, alors. Mm. Ça m'intéresse. Ça m'a jamais intéressé, même. Je suis très terre à terre, je suis très, très concret. C'est pas ce que je cherchais dans la peinture. Ce n'est pas non plus ce que je cherchais dans le roman, ni dans la littérature. Je mets Proust très haut, mais les analyses psychologiques de Proust, ça m'ennuie plutôt. Je suis le contraire de Breton. Breton disant, quand j'arrive à une description dans un roman, je tourne la page. Moi, je dirais presque que quand j'arrive à une analyse psychologique dans un roman, je tourne la page aussi.
Et dans la peinture contemporaine ?
Ah, contemporaine, alors, contemporaine, ou bien, qu'est-ce que vous entendez par peinture contemporaine ? Parce que déjà...
Parlons de ceux qui sont vivants.
Ceux qui sont vivants, ah ben alors, celui qui vient de mourir, il est presque vivant, puisqu'il est mort il y a 2 ans du Buffet, dont je me sentais très proche, et lui aussi se sentait très proche de moi, puisque nous avons une longue correspondance, et à chacun de mes bouquins, il m'écrivait des lettres. J'aime beaucoup ce que fait mon ami Soulages. Et puis alors, je me sens très très près d'un peintre comme... puisque vous parlez des peintres vivants, Tapies par exemple. J'aime beaucoup Tapies. Mettons-les parmi les vivants, puisqu'ils sont morts. Louise Nevelson est morte il y a 2 ans ou 3 ans. Je mets encore parmi les vivants, je mets très haut. Rauschenberg, l'Américain, là, j'aime énormément. Et c'est le concret aussi, c'est ce dont je parlais l'autre jour. Plus de trompe-l'œil, l'objet en soi, l'objet lui-même, les assemblages, la composition. Ça déroule des collages de Picasso, si vous voulez, avant la guerre. Mais enfin, il l'a poussé beaucoup plus loin. Et c'est assez... pour en venir à Sartre, qui dit, il s'agit de savoir si on veut parler du sort de la condition des Juifs ou du vol des papillons. Eh bien, il se trouve, le vol des papillons, non, ça c'est l'horreur pour Sartre. Il se trouve que l'initiateur de cette peinture concrète a été, et les deux, on peut dire même les deux, puisque nous, ça, c'était Schwitters qui était un juif en enfuyant le nazisme et qui n'a pas représenté des camps de concentration, la condition des Juifs, mais c'était Schwitters et une autre grande figure de l'art aussi, c'est Louise Nevelson qui était juive et qui a fait des assemblages de bouts de bois, de morceaux de bois. Alors c'est on peut se retourner dans sa tombe, voilà des juifs qui ont souffert eux-mêmes de l'hitlérisme et qui n'ont pas parlé de la condition des juifs. Ou peut-être, d'une certaine façon, ils en ont parlé, c'est-à-dire, avec ce dont je parlais l'autre jour, ce retour, cette recherche du concret, au lieu du discours humaniste. Alors peut-être qu'à leur façon, ils ont parlé du sort des Juifs.
La chevelure de Bérénice. Mâchoire de quel animal sur le sable non loin de la casserole, maxillaire, os en forme de crosse, aux manches allongées, plat, avec une rangée de longues dents jaunâtres, parmi les herbes gris-vert faiblement agitées par le vent, dunes, aux aisselles velues. Sur le sable lisse, un oiseau avait laissé les traces de ses pas délicats. Trident à peine marqué, se suivant, dessinant des courbes, des boucles se recoupant nonchalantes et fantasques, et le couvercle d'une boîte de conserve ouverte, l'une orange au bord dentelé piqué de taches de rouille, sous le ciel gris, là-bas, elle n'était plus maintenant que 3 points minuscules, géranium, vert pomme et noir. Bas noir aussi, quoique jeune. Peut-être en deuil. Ami. Longeant la bordure baveuse des vagues. Une ligne en feston, brunâtre, faite de détritus, algues, morceaux de bois flottés, doublait la frange d'écume plus loin une seconde encore, mais plus imprécise.
1971, colloque de Cerisy sur le nouveau roman. 1974, colloque Claude Simon. C'est à cette occasion, Georges Rayard, que vous avez parlé de ce livre, Femme, qui réunissait Claude Simon et Miro.
Ce livre était un peu négligé par tout le monde, pour des raisons purement matérielles. C'était un livre rare, un grand livre, à tirage très limité. Et il n'avait pas encore été réédité, comme les éditions Minuit l'ont fait depuis, sur le nom de La chevelure de Bérénice. Je crois que Femme, entre-temps, on a l'impression que c'est un titre qui pourrait s'appliquer à tous les livres de littérature, mais Philippe Solers avait pris le titre de Femme, entre-temps, donc Claude Simon, qui avait cette priorité, si on peut dire, a dû, je crois, changer son titre, l'appeler La chevelure de Bérénice. La chevelure de Bérénice, je crois que ça va très bien, ça va très bien à ce texte, dans la mesure où il y a, comme dans beaucoup de textes de Claude Simon, une espèce de résille, verbale, de résille de thème, une sorte de constellation. Quand j'appelle le mot constellation, je me réfère à un ensemble de Miro, antérieur, à celui qu'a commenté Claude Simon. Et si je reprends Femme, eh bien, c'est aussi un titre de Miro. Il y a par conséquent, aussi bien par un titre que par l'autre, une très grande communication entre Claude Simon et Miro. Femme, pour Miro, c'est pas forcément des femmes, c'est un type de signe. Il y a femme d'un côté, oiseau de l'autre. Et il y a une très grande parenté. On ne pourrait pas dire que Claude Simon illustre Miro, ou encore, comme on l'a dit d'une manière un peu, enfin, complètement erronée, que Miro a illustré Claude Simon, parce que ça, ce n'est pas vrai du tout. Mais il y a un même traitement, je crois, dans les signes. On voit chez Miro un signe qui ressemblerait à une moustache de très 1880. Cette moustache, Miro, en a fait, ou ce signe, si vous voulez, ou l'a confondu avec des feuillages d'eucalyptus. Et puis, ça devient ailleurs des vagues, ça devient même le propre monogramme de M de Miro, et ça devient aussi, et là nous touchons véritablement Claude Simon, les marques de deux seins, qui sont toujours formées avec le même signe. Nous voyons très bien, dans le cas de Claude Simon, un procédé qui est totalement analogue à celui qu'emploie Miro dans les arts plastiques. Par exemple, à Le son de choses, c'est précisément cela. Ce que nous enseignent les choses, c'est-à-dire les appariements de choses, les rapports que qu'ont les choses entre elles, les rapports de mots et les rapports de choses, où on voit par exemple, deux seins, dit Claude Simon, en forme de croissant ou de parenthèse. On voit très bien comment c'est l'idée du signe qui communique. Et dans le même ordre d'idées, dans ce livre, nous voyons, et qui vient en partie de Femme, puisque comme pour Orion aveugle, des textes qui sont faits d'abord à partir de peintres sont ensuite intégrés par Claude Simon dans ses romans. Nous trouvons dans des textes d'Orion aveugle qui partent de la peinture de Rauschenberg ou d'accumulation de Armand, et qui ensuite, sans image, vont fournir des romans. Alors, je disais donc que il y a, prenons le mot feston, qui apparaît dans les corps conducteurs, qui vient des femmes sur la plage ou qui sont chez Miro. Avec Miro aussi, un jeu sériel de signes qui, par série, ce sont des séries de cinq ou six planches sur le même thème, vont être déclinées. Eh bien, nous avons la même chose chez Claude Simon. On décline festons, les festons des vagues sur la mer, les festons d'une combinaison, de même, le même objet. Collerette va pouvoir désigner à la fois un vêtement de femme, va pouvoir désigner un sexe d'homme, etc. Et il y a tout un jeu de mots.
Est-ce que ça veut dire que vous lisez Claude Simon comme vous regarderiez un tableau?
Exactement. Je dirais même que je pratique deux lectures maintenant de Claude Simon. Quand j'en ai le temps, je lis en entier, en y consacrant tout le temps, et lentement, hein, bien sûr, on n'avale pas Claude Simon. Mais ce que je fais assez souvent, c'est de lire des fragments, exactement comme on peut regarder un tableau et non pas l'œuvre entière, ou même un détail d'un tableau, et de la même façon.
Loin peut-être des sujets que vous photographiez, de ce qui vous intéresse dans la photographie et des objets, des scènes que vous
avez. Pour m'intéresser, il y a tout. Des personnages, des paysages.
Et la photographie prenait quelle place par rapport à l'écriture?
C'est un plaisir, c'est tout. On me demandait le bon plaisir tout à l'heure. Ben, c'était le plaisir. L'écriture aussi, c'est le plaisir d'écrire. Mais encore une fois, c'était pas pour gagner de l'argent, j'aurais été bien déçu, c'est tout. Et j'ai fait la peinture pour le plaisir de peindre, j'ai fait la photographie pour le plaisir de photographier, j'ai écrit pour le plaisir d'écrire. Ceci peut être très immoral, je suis un homme de plaisir.
Je vous avais déjà vu Claude Simon photographier.
Non, ni photographier ni écrire d'ailleurs. On va se demander si ça lui arrive. Non, mais en plus les photos, enfin les photos que nous connaissons essentiellement, celles qui ont été publiées dans ce gros livre chez Mag, sont des photos anciennes. Hein. Sont des photos. Qui ont été prises essentiellement avant la guerre, un peu avant la guerre et après, dans les années 50, par là. Il y a toujours eu dans les livres, dans les monographies, ou les numéros de revues consacrés à Claude Simon, de temps en temps, deux, trois photos anciennes, noir et blanc, qui étaient connues classiquement, mais qui étaient très, très rares quand même. Et c'est seulement très tardivement que j'ai découvert qu'il y avait beaucoup plus de photos que ça et qu'il avait retrouvé tous les négatifs. Ce qui est quand même assez exceptionnel pour quelqu'un qui n'attachait pas beaucoup d'importance à son œuvre de photographe et qui, 30 ans après, alors qu'il avait perdu tout intérêt pour la question, brusquement me sort chez lui une boîte avec tous les négatifs empilés dedans. Les négatifs des photos qu'on connaît, qui ont été publiées.
Celle de...
Et rien d'autre.
Celle de l'album de Mag.
Oui. J'étais très étonné. Très, très étonné. J'ai dit, mais Claude, mais comment ça se fait? Sa réponse a été très dilatoire. Alors, de penser qu'il n'y avait rien de particulier à un événement que je considérais, moi, aussi exceptionnel. C'est tout à fait intéressant comme trajectoire parce que Claude Simon commence comme peintre quand même. Sa première vocation a vraiment été d'être un peintre, de devenir un grand peintre et rien d'autre. En même temps que ça, bien entendu, le rapprochement plastique s'impose, il s'intéresse à la photo noir et blanc, au point quand même de publier dans les années 30 des photos noir et blanc dans des revues comme Verve ou des choses comme ça, ce qui n'est pas... C'est pas le comportement normal d'un amateur, ça. Bon. Et donc, il fréquente des gens, des photographes de l'époque, comme Brassailles ou Halsman, ou des gens comme ça, qui sont de grands professionnels. Donc, il était vraiment... Bon, il était parti dans cette idée-là, qu'il était un photographe d'art.
Mais il vous l'a dit ou vous le reconstruisez rétrospectivement?
Non, il me l'a dit, il me l'a raconté plusieurs fois, très en détail... Et après, alors au fur et à mesure qu'il devient vraiment un écrivain, il continue à faire des photos. On sent que visiblement, l'un aide l'autre. Je ne sais pas comment, mais il y a évidemment des correspondances très précises.
Et puis peu à peu, au fur et à mesure que son œuvre littéraire devient abondante et importante, il renonce à la photo. Il renonce pas à la photo, il renonce à la photo noir et blanc d'art. Et puis il se met à faire peu à peu des photos couleurs, qu'il dit être absolument sans intérêt, et qui effectivement n'ont aucun rapport d'art avec la période des noirs et blancs. Et puis, peu à peu, le noir et blanc est abandonné, totalement, définitivement. Il n'y a plus d'art chez lui que littéraire. Mais tout ça s'étale sur quand même quelques décennies, ce que je trouve très très troublant. Ce qui serait formidable, c'est un jour d'avoir une grande exposition rétrospective plastique. C'est-à-dire avec les tableaux au début, la photo noir et blanc d'avant-guerre, la photo noir et blanc des années 50, le début des photos couleurs et la période finale où il n'y a que des photos souvenirs couleurs.
Comment les regardez-vous, ces photos que vous appelez des photos d'art?
La première sensation visuelle que j'ai de ces photos tient au fait que j'ai vu d'abord les négatifs et les tirages et que j'ai vu après son exposition et son livre où toutes les photos sont recadrées. Bon, ça c'est quelque chose, il le sait, c'est quelque chose qui m'a toujours ulcéré. J'ai toujours eu un mal de chien à comprendre qu'on recadre des photos. Pour moi, une photo, c'est la prise photographique directe, et c'est là que se joue complètement toutes les implications artistiques, esthétiques, qu'après, au tirage, au laboratoire, on revienne dessus pour faire dire autre chose en recadrant, parce qu'il regarde beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup. Ça m'a toujours troublé, je lui ai toujours dit. Mais lui est très déterminé là-dessus, parce qu'il dit toujours, la prise, c'est-à-dire ce qu'il voit dans le viseur, la prise, c'est simplement l'élaboration du brouillon. Il a toujours dit ça très très nettement. Et donc, il retravaille son cliché comme il retravaille ce qu'il écrit. Souvent, il ne garde qu'un élément de la photo, qu'un personnage ou un animal, alors que sur le négatif entier, il y en avait plusieurs. Ce qui veut dire quand même des choses très différentes au regard photographique. Donc moi, c'est ça que je vois en premier, bon, qui me trouble quand même beaucoup. Parce que quand je vois les photos dans le livre, j'ai quand même dans l'œil la photo complète, en général. Ça me trouble. Mais pourquoi pas? Et je trouve que ce parti pris aussi radical de dire, moi, la vision photographique initiale, j'en ai rien à faire, c'est un brouillon, ce que je ne crois pas qu'aucun autre photographe ait jamais dit, je trouve que dans cette radicalité, il y a quelque chose qui est très proche de sa radicalité lorsqu'il écrit, hein, qui est également un traitement, une fabrication, ça très très élaboré, très avec un retravail constant sur l'écriture. Quand on voit ses manuscrits, on s'en rend compte. Donc pourquoi pas, je reconnais tout à fait ça. Mais c'est vrai que, indépendamment de cette question de recadrage qui est secondaire, on voit quand même dans beaucoup de ces photos l'intention esthétique extrêmement affichée, dans le cadrage, la façon de centrer quelque chose, mais la façon de révéler l'aspect iconique central à l'image. Et puis on voit aussi, parce que il y a quand même aussi dans la photographie des phénomènes de convergence. Il ne fréquentait pas des gens comme Isis ou Willy Ronis, mais on voit bien qu'à la même époque, les photographes importants qui ont vraiment un œil photographient un peu les mêmes choses et de la même manière. Et puis alors, en même temps, il y a des choses, tout d'un coup, Claude Simon rompt avec ça, avec ce regard, et il photographie des choses simplement parce que ça l'intéresse. C'est-à-dire que l'implication strictement esthétique du coup d'œil et de la visée disparaît totalement devant quelque chose qui est strictement de l'ordre documentaire. Par exemple, les photos de murs ou les photos de graffiti. Bon, ça, c'est des photos purement documentaires. Il n'y a pas d'art photographique particulier Donc c'est très très difficile à faire quand on est face à un mur avec des graffitis dessus et qu'on photographie les graffitis parce qu'ils sont marrants ou qu'ils ont quelque chose de curieux. Bon. De même, les photos de murs sans graffitis qui sont... Il le dit lui-même, c'est très proche de la démarche de Dubuffet quand il faisait les texturologies. Donc il photographie un mur parce qu'il y a un assemblage de mortier, de briques, de cailloux, je sais pas quoi, qui lui plaît dans une espèce de géométrisation comme ça, abstraite, brute. Donc il se plante devant et il photographie ça. Moi j'aime assez ces décalages-là, qui sont des décalages qui choquent la critique photographique, pour qui, évidemment, une œuvre doit toujours être centrée, il ne doit pas y avoir de choses qui dépassent, il ne faut surtout pas l'entrée en scène de l'image documentaire, etc.
Et alors, parlez-nous d'une de ces photos.
Une
Une dont vous auriez envie de parler.
Je cherche où sont ces photos. Celle-là qui est tout à fait prodigieuse, qu'il a appelé l'homme rat. Ça, c'est une très très grande photo. Il dit que c'est un homme, ça me paraît un adolescent, je ne sais pas, c'est très difficile à dire, qui a l'air un peu arriéré, et qui porte une bouteille de vin dans un bras, et qui a une expression tout à fait formidable. La nudité et la pauvreté du mur qui est derrière, qui est placé tout à fait frontalement, est tout à fait formidable. J'aime évidemment beaucoup les graffitis pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y en a beaucoup et c'est assez passionnant. Certains ont été photographiés délibérément parce qu'ils ressemblent à des Dubuffet. Hein, celui-là s'appelle Portrait page 49, un peu difficile à décrire. C'est vraiment un Dubuffet. C'est tout à fait exceptionnel. Les photos de nomades, d'un campement de nomades, sont des photos extrêmement fortes. Ça, c'est très très beau. Est très différent de l'ensemble de son œuvre, parce que ce sont des photos qui sont prises d'un peu au-dessus, sans doute du bord de la colline, et il plonge avec son appareil un peu par-dessus le campement des Gitans. Et ces photos-là, au contraire de la plupart des autres photos de Claude Simon, sont des photos très remplies, où il y a beaucoup de personnages, il y a des arbres, il y a des roulottes, il y a des objets par terre, il y a des bouts de murs, des portes. Les feuillages sont très importants, là il y a des espèces d'abris de canis, il y a des fils à faire sécher le linge en travers. Là, ce sont des photos qui sont remplies complètement, où le regard n'est pas centré sur quelque chose de décisif, mais éparpillé sur un contenu qui est presque trop, une espèce quasiment de saturation de la sélection ou de l'information dans l'image. Et ça, je trouve ça très très bien. C'est très beau. Quelques-unes comme ça quand même. Les chevaux, bon, évidemment, quand on connaît l'œuvre littéraire de Claude, on ne s'étonne pas qu'il ait photographié des chevaux dans la campagne ou des graffitis de chevaux qui sont quasiment du Lascaux, hein. C'est formidable. Ou de la grotte Cosquer, plus récemment découverte.
Des scènes de course aussi.
Des scènes de course. Mais fort heureusement, là où il y a cheval, il y a également graffiti phallique et des cœurs avec des inscriptions amoureuses. J'aime assez le rapprochement de ça. Et puis il y a la série des trois nus dont l'un avec un personnage qui a un masque de cheval, ce qui est quand même pas mal ça, qui l'a intitulé peintre et modèle, ce qui est assez formidable parce que le modèle, bon, c'est la femme nue bien sûr, mais le peintre a une tête de cheval, ce qui est bien. C'est assez mystérieux quand même, à la fois la trajectoire et cette histoire de recadrage. Et qu'est-ce qui se passe dans sa tête alors qu'il est en train d'écrire tous ses grands romans?
Vous l'avez interrogé là-dessus?
On a dû en parler, mais...
Il est discret.
Il est très discret, oui. Très, très discret. Il a raison d'ailleurs, parce que ça... Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça changerait, ce qu'il dirait là-dessus? Le fait est, on met ça côte à côte et on se pose des questions. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir à se poser des questions. Il y a des œuvres littéraires ou des œuvres photographiques devant lesquelles on ne se pose pas beaucoup de questions, même si elles sont grandes. Mais il n'y a pas de questions. Tandis que là, il y en a beaucoup. Ça reste un ensemble, tout ça, peinture, photographie, littérature, qui a quelque chose de très dérangeant, alors que c'est en même temps si monolithique chez lui. Hein. C'est affiché, ses livres ont un contenu qui est affiché violemment, comme ça, qui est de l'ordre de, je sais pas, une espèce d'administration à l'égard du lecteur. C'est comme ça, c'est pas autrement. Avec ces déboîtages constants, ce jeu de bricolage incessant, comme ça. C'est assez violent sur celui qui le lit. Hein. Et le lecteur est obligé de laisser fourmiller ses propres questions et de ne pas obtenir de réponse. C'est très bien.
Décembre 1985, discours de réception de Claude Simon à l'Académie suédoise, présenté par Lars Gyllenstein.
Mesdames, messieurs, au nom de l'Académie suédoise, je vous souhaite cordialement la bienvenue à cette conférence Nobel. Monsieur Simon, vous êtes le 12e auteur français à qui a été attribué le prix Nombre de littérature. Au nombre de vos prédécesseurs figurent de renommés créateurs tels qu'Anatole France, Henri Bergson, André Gide, François Mauriac, Albert Camus. Parmi les nations individuellement établies, votre pays détient le record de lauréats. Toujours sait-il que ce ne sont pas les nations qui ont pris une belle récompense, mais des individus. Ce prix ne reflète pas une appréciation de caractère politique ou diplomatique, mais de nature littéraire. Lorsqu'on vous attribue le prix Nobel de littérature de cette année, ce n'est pas parce que l'Académie a pu trouver nécessaire de revenir à un créateur de langue française, se conformant ainsi à une sorte de tour à tour diplomatique. C'est parce que vous êtes un auteur important qui représente ce qu'il est et ce qu'il crée. L'air évocateur et exorcissant avec lequel vous maniez les mots, le feu et l'esprit de suite qui anime l'engagement humain a eu un effet novateur sur l'art du roman moderne. La perspective d'entendre votre conférence nous réjouit d'avance. Ceci dit, je vous souhaite tout particulièrement la bienvenue et vous prie de prendre la parole.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, sur les sentiments que peut éprouver un lauréat distingué par l'Académie suédoise, l'un de mes confrères Nobel, comme il nous appelle, le docteur André Lvoff, dans une lettre qu'il a eu la gentillesse de m'adresser, c'est on ne peut mieux expliquer. La recherche étant un jeu, écrivait-il dans son remerciement, il importe peu, en théorie tout au moins, que l'on gagne ou que l'on perde. Mais les savants, je dirais aussi les écrivains, les savants donc possèdent un certain trait des enfants. Comme eux, ils aiment gagner, et comme eux, ils aiment être récompensés. À quoi André Lvoff ajoutait, au fond de lui-même, tout savant, tout écrivain, dirais-je encore, désire être reconnu. Et si j'essaie d'analyser les composantes multiples de cette satisfaction par certains côtés puérils, je dirais qu'il s'y mêle une certaine fierté, qu'au-delà de ma personne, l'attention se trouve ainsi attirée sur le pays qui, pour le meilleur et malgré le pire, est le mien. Et où il n'est pas mauvais que l'on sache que, en dépit de ce pire, existe comme une obstinée protestation d'émigrés, moqués, parfois même hypocritement persécutés, une certaine vie de l'esprit qui, en soi, sans autre but ni raison que d'être, fait encore de ce pays un des lieux où survivre, indifférente à l'inertie ou parfois même à l'hostilité des divers pouvoirs, quelques-unes des valeurs les plus menacées aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce que le prix Nobel a changé à votre vie ?
Ah ben, il m'a mis un peu plus à l'aise financièrement. Autrement, ça a changé, oui, ça change beaucoup de choses. Contrairement à ce que me conseillait mon garagiste, je n'ai pas acheté une nouvelle voiture, ça ne m'intéressait pas. J'ai acheté plutôt des objets, des masques nègres, des objets primitifs. Et j'ai un scène qui m'a dit, écrivez, écrivez, parce qu'après, ils n'écrivent plus. Après le Nobel. Et bien, après le Nobel, j'ai publié l'invitation, ce petit livre, et puis j'ai publié un de mes plus gros livres, l'Acacia. Ça ne m'a pas empêché d'écrire. Et qu'est-ce que ça a changé? Ben voilà, je vous ai résumé à peu près ce que ça avait changé.
Je me souviens qu'un petit peu après Stockholm, vous m'aviez dit, j'ai deux souvenirs de fatigue, c'est la guerre et le Nobel.
Oui, j'exagère un petit peu, mais ça m'a beaucoup fatigué. Ça, c'est fatigant. Fatigant d'abord, en apprenant ça, moi j'ai appris le 17 octobre, et puis il y a ce discours à faire, ce discours dont on sait qu'il va être reproduit à peu près dans tous les journaux du monde entier, et le 17 octobre, on vous demande de remettre ce discours le 1er décembre, ça fait pas beaucoup pour être traduit, parce qu'il faut que ce soit dit. Donc ça fait pas beaucoup, étant donné que vous avez été témoin, j'avais des journalistes ici, et j'étais ici, j'étais pas à Paris. Malgré ça, j'avais des journalistes à peu près tous les jours, et je voyais cette date du 1er décembre se rapprocher. J'ai fait ça en bas, et à New York, j'ai rencontré... dans un cocktail chez Miller, j'ai rencontré Miloš, vous savez, qui a eu le Nobel un peu avant moi, 2-3 ans. Il m'a dit, à le Nobel, il me dit, c'est épatant, hein. Mais le discours, il m'a dit, je lui ai dit, oui, le discours.
Et tout ce cérémonial du Nobel
Ah, c'est super, notamment le dîner, vous avez assisté au dîner à l'hôtel de ville, avec ce service, cette espèce de chose qui tient à la fois des folies bergères et de la revue militaire, ces serveurs qui arrivent.
À qui donniez-vous le bras, d'ailleurs, dans ce...
À la princesse Christine.
C'est ça, la sœur.
La princesse Christine. Au dîner à l'hôtel de ville, j'étais entre Madame Palme, qui était charmante, je ne sais pas si vous gardez un souvenir d'elle, et la princesse Christine. Réa était entre Palme et le prince Bertil. Alors, Palme lui parlait du socialisme, et Bertil lui parlait de bar. Et au dîner au Palais Royal, alors j'étais à la droite de la reine, qui est beaucoup plus jolie de près que de loin.
Et de quoi lui parliez-vous?
On ne sait pas trop quoi dire dans ce genre de choses. Alors, il y avait les assiettes qui étaient aux armes de la maison de Suède. Et là, c'était bien posé. Et avec mon sens de la gaffe, je dis, ça me rappelle les mémoires de Trotsky. J'ai vu un peu sursauté, parce que Trotsky raconte dans ses mémoires que quand il dînait au Kremlin, avec des coups de téléphone, ils étaient tous comme ça, en fait, vous imaginez, le comité central, en 1901, il y avait les assiettes du tsar encore. Et il y avait un vieux maître, eux les mettaient n'importe comment, et il y avait un vieux maître d'hôtel qui passait et qui remettait toujours les armes du tsar en bonne position. Thank you.
regarde les dates de vos livres, Claude Simon, on s'aperçoit qu'ils se succèdent selon une certaine périodicité qui est à peu près celle de 2 ans. Bon, je mets à part les tout premiers, Le Tricheur, La Corde Raide, Gulliver, Le Sacre du Printemps. Mais ensuite, si je regarde leurs dates, 57, Le Vent, 58, L'Herbe, 60, La Route des Flandres, 62, Le Palace, 67, Histoire, 69, La Bataille de Farsal, 71, Les Corps Conducteurs, 73, Triptyque, 75, Le Sang de Chose, 81, Les Géorgiques, 84, La Chevelure de Bérénice, 87, L'Invitation, 89, L'Acacia. Il y a 3 livres qui semblent vous avoir demandé davantage de temps. C'est-à-dire, il y a 5 ans entre Le Palace et Histoire.
Oui.
Il y a 6 ans entre Le Sang de Chose et Les Géorgiques.
Oui.
Et il y a, voyons si on accepte le discours de Stockholm ou L'Invitation, ou l'album d'un amateur, c'est ça.
Petite chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui m'a donné beaucoup de mal.
Voilà, entre Les Géorgiques et L'Acacia, qui sont 2 grands livres, il y a 8 ans. Est-ce que...
Oui, mais je crois que j'ai souvent fait cette image, pour rendre la chose imagée, la même comparaison entre coureur de sprint et coureur de demi-fond. Si vous voulez, il y a des sprints et puis il y a du demi-fond. Ça demande plus de temps. C'est tout.
Ce sont des livres qui vous ont posé des problèmes de composition, d'élaboration?
Tous mes livres m'ont posé des problèmes de composition, d'élaboration, mais plus ils sont gros, plus les problèmes sont compliqués. D'abord, c'est plus lent de les écrire, il faut plus de temps pour les écrire, ensuite les problèmes, évidemment, sont plus complexes.
Et est-ce que vous les considérez comme des livres plus importants, ces livres qui...
Non.
Non.
Non. Je trouve que dans La Bataille de Farsal, je trouve que peut-être, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire. D'un certain point de vue, je les trouve mieux, d'un certain point de vue, moins bien. Enfin, c'est autre chose, les livres courts ou les livres longs. Vous savez, je le cite, ça fait rire les gens, mais c'est profondément vrai. Merleau-Ponty avait fait un de ses derniers cours sur moi au Collège de France. Et je ne suis pas fini, il m'avait dit, venez m'écouter, je peux parler de vous. Et je suis allé, moi je n'ai même pas fait ma classe de philo, j'ai fait des mathématiques quand j'étais jeune. Et alors à la sortie, nous avons été au bazar prendre un pot, et il me dit, eh bien alors qu'est-ce que vous en pensez? Et alors ça m'a révélé quelque chose. Eh bien je lui ai dit, je n'ai rien compris ce qu'il a raconté. Il avait parlé de notions d'espace et de temps que j'avais découvertes, moi j'étais perdu. Et je lui ai dit, ce Claude Simon dont vous parlez, il doit être très intelligent. Et il me dit, oui, mais c'est pas vous. C'est vous travaillant, c'est ce personnage que nous suscitons par le travail de la langue, que nous sommes assis à notre table et qui disparaît dès que nous nous levons. Nous nous remettons à parler comme tout le monde. Et là, je crois que c'est profondément vrai. C'est pas moi qui ai écrit mes livres, c'est un autre. C'est moi travaillant.
Et quand vous les relisez, vous avez une impression d'étrangeté?
Ah oui, je me suis, comme j'ai dit à... Merleau-Ponty, je me dis, il a du talent ce type. Ou alors quelquefois je suis mauvais.
Vous avez fait de la course vous-même?
Ah oui, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. J'ai fait d'abord du cheval, on m'a collé, comme je vous l'ai dit, sur un cheval à 12 ans. J'ai fait du rugby, j'ai fait beaucoup d'athlétisme. Je faisais surtout du sprint et des sauts à la perche, mais pas les hauteurs qu'ils font maintenant. J'ai fait beaucoup de ski, j'ai fait beaucoup de tennis. Non, je crois que ça m'a permis quand même de survivre sans être trop décati. Mais maintenant, je n'en fais plus beaucoup, non.
Vous étiez joueur de rugby?
Oui, vous savez, ici, tout le monde, c'est la patrie, c'est le pays. Mais enfin, je n'ai pas joué ici, j'ai joué à Paris dans les scolaires, les rencontres entre Stanislas, Janson de Sailly, Henri IV... Non, à Colombes, non pas sur le terrain d'honneur de Colombes, mais sur le terrain secondaire de Colombes, qui est complètement gelé l'hiver avec 3 brins d'herbe. C'était des challenges, c'était des parties. C'était dur.
Et vous étiez quoi?
Comme j'étais assez rapide, j'ai joué. Soulage, je me demandais, parce que Soulage a joué, lui, alors, dans l'équipe de Rodez. Lui, il a joué seconde ligne, il pèse 110 kilos. Non, moi j'étais assez rapide, j'ai joué à l'ouverture, j'ai joué 3/4 centre. J'étais pas assez rapide pour être 3/4 aile.
Et vous allez assister à des matchs de rugby?
Ben, j'y allais autrefois beaucoup, ça, je sors de moins en moins. Une des dernières fois où j'ai été, j'avais, pour les matchs internationaux, j'avais quelqu'un qui me procurait des billets, c'est très difficile. Et j'ai eu un billet en trop, et je l'ai dit à Lindon, qui m'a dit, ah, si vous feriez un plaisir fou à Beckett, si vous l'ameniez. Et c'était justement un France-Irlande, à Colombes. Il y avait le Parc des Princes, n'existait pas encore. Et je n'ai, Beckett, si vous voulez le rencontrer, c'était la concentration, c'était le séance. Il me donnait des coups de coude. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans un état d'excitation
pareil. C'était le bon plaisir de Claude Simon par Marianne Alphand, avec Jérôme Lindon, Pierre Soulages, Gérard Robichoux, Georges Rayard, Denis Roche et la voix de Pablo Casals. Texte lu par Antoine Vitez, La Route des Flandres, par Anna de Carvalho, Les Géorgiques, Histoire, La Chevelure de Bérénice. Nous remercions la Fondation Nobel pour les extraits du discours de réception de Claude Simon. Coordination Françoise Raymond. Prise de son et mixage Patrick Marguerite, Franck Malabry. Réalisation Pamela Dousseau.